Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
What's up, mon amour?
Allô?
Je suis allé lancer des haches l'autre fois avec toi.
Wow!
J'ai aimé ça. C'était à Rage, Montréal. C'est situé au cœur du quartier inclusif. C'est vrai, c'est le nouveau nom du quartier. Quartier, anciennement, le village gay. Disons-le.
Maintenant, c'est le village inclusif.
Ben, j'adore ça. Intersection Sainte-Catherine et Atatéken à Montréal. Rage Montréal, c'est pour lancer des haches dans du plywood. Pis c'est vraiment le fun.
C'est extraordinaire.
Pour vrai, je jugeais un peu, mais j'étais complètement exaltée.
C'est extraordinaire.
Après, on a pris des photos comme si on était des guerriers, des nains dans Lord of the Rings avec une grosse hache.
Pis si tu veux 15% de rabais, coupe l'ouvert 15% sur n'importe quelle réservation de 1 à 18 personnes.
Jusqu'au 30 avril 2023.
La 19e à payer.
Ouais. Ton ami Gosselin, il paye.
Ben.
C'est valide jusqu'au 30 avril 2023. Réservez dès maintenant au ragemontréal.com pour vivre l'expérience d'une vie. C'est vrai.
C'est extraordinaire.
C'était extraordinaire. Bon épisode. Ode aux amis.
Bon, ça va, ma chérie. Je vous le podcast a changé, c'est maintenant un podcast jeunesse. C'est le podcast de Passe-Partout. Je vous présente la nouvelle Passe-Caro, une fille qui dort pas.
Mais là, la petite a fait plus ses nuits, là, ça va mieux.
Dort pas plus.
Ouais, je sais pas. Mais on a récemment fait le Club Soda cet automne, puis ça a été une expérience transcendante, ça a été vraiment exceptionnel. Tous nos lives sont vraiment nice, mais là, c'était comme next level, il y avait tellement de monde et tout ça, puis c'était vraiment enivrant.
Mais si vous venez nous voir, c'est fou que des gens se déplacent pour nous. Je suis très, très touché.
Puis c'est vrai. Merci de prendre le temps de le dire. Puis l'énergie est tellement palpable, je pense qu'on le sent aussi après ça à l'écoute. Nos épisodes live sont tellement explosifs, donc merci beaucoup à tous ceux qui viennent nous voir. Et vous pouvez venir nous voir si vous allez au thomaslevac.com, stéphanievandelac.com, on fait plein d'autres lives, venez nous voir.
À moi, à votre place, je viendrai à Brossard. Moi, je viendrai à Brossard. Je dis ça de même.
J'irais partout.
Mais plus à Brossard.
Mmh.
Est-ce que c'est parce que c'est la plus grosse salle puis on a peur? Non! Non! C'est pas ça. Mais moi, je viendrai à Brossard.
Mais donc, au Club Soda, c'est que j'ai des amis qui sont venus me voir. Puis moi, la majorité de mes amis ne travaillent pas en humour, consomment très peu d'humour, puis sont plutôt
loin. Oui, la
plupart
de tes amis me disent « Tu fais-tu encore ça? »
Oui, non, ils savent juste pas.
C'est un peu frustrant.
Oh mon Dieu, tu te souviens quand mes amis sont venus à ta soirée d'humour, Adib était sur scène, puis une de mes amies a fait « Il est bon, lui!
» Oui. Oui. Puis elle a dit « Oui, il faut le surveiller. » Puis elle a dit, une de mes amies a fait « C'est quand même Adib, il est quand même placé, puis ça va bien ses affaires. » Elle a fait « Ah, moi, je connais juste ceux qui ont des specials Netflix. Il y a un special Netflix. » Ça va, là.
Puis donc, c'est ça, sont venus au Club Soda, puis merci à mes amis, je vous aime beaucoup, c'était vraiment le fun que vous soyez là. Mais un de mes très bons amis était là, puis je l'aime tellement, ce gars-là, parce que je me dis, j'ai adoré être sur scène ce soir-là, mais j'aurais vraiment aimé ça être à ses côtés, parce que deux éléments. Premier élément, lui aussi, il a déjà travaillé chez Simons, comme moi, mais lui au centre-ville et moi au Carrefour Laval, mais bref. Fait que là, un moment donné, il voulait s'acheter un chandail en souvenir. Et là, il s'est mis à demander...
Au Club Soda.
Oui, c'est ça, un moment donné dans la soirée. Et là, il s'est mis à interagir avec la fille qui fait la merch, qui est, tu sais, une employée du Club Soda.
Fatigué.
Relax, là, tu sais.
Fatigué, hâte de partir. Hey, il est tard,
c'est pas
là.
Sa passion, vendre de la merch,
il mettons,
rendu, là.
Il est rendu 10h30, là.
À projet de vie. Puis là, lui, il s'est juste mis à lui demander son avis en essayant différentes grandeurs de coton ouaté en disant « Qu'est-ce qui m'avantage? »
Comme s'il était au château.
Le comme mieux.
Comme ça, comme
puis
ça.
Juste imaginer la
scène.
Il
était sous. On le connaît, il était sous.
Oh, ça me fait tellement rire. Je t'aime tellement, là. Merci pour ça. Puis aussi, ensuite, il est allé s'asseoir en salle. Puis quand les personnes du bar sont passées à côté de lui pour lui demander s'il voulait quelque chose à boire, il a commandé tout de suite 2 bouteilles de vin. Pas 2 verres, 2 bouteilles. Il se dit, yo, la salle est pleine. Je sais pas quand est-ce que les personnes du bar vont repasser ici puis qu'ils vont avoir du temps. Je commande tout de suite 2 bouteilles. Il était comme, hey, c'est pas si cher. Puis à l'endroit, il a pris des shooters de Jack Daniels puis il en a payé à plein de monde autour de lui. Meilleur gars.
Meilleur gars. Meilleur gars. En plus, c'est ton ancien coloc.
Oui, c'est ça.
Ce gars-là. La première fois qu'il m'a vu. Puis aussi, ça a l'air homophobe, mais c'est important. Pour l'anecdote, il est gay. Puis, tu sais, le genre d'homosexuel qu'il a pas besoin de faire le coming out. Tu sais, tout de suite, ah, ben oui, il aime ça, il préfère les hommes qu'aux femmes. Première fois qu'il m'a rencontré, première fois qu'il me voit, je vais chez lui, Steph et moi, on va souper. J'ouvre la porte, puis il y avait des serviettes dans ses mains. Puis il avait dit, salut mon beau, ta belle m'a dit que tes serviettes puaient. Fait que pour pas la perdre, prends donc ça. Il m'a donné 6 serviettes qui puaient pas.
Qui sont restées, nos serviettes, vraiment
oui,
longtemps.
Oui, qui sont mis à puer. Fait que j'en t'ai pas vraiment.
On est déjà rendu au point qu'on oui. les a maintenant changés.
Oui.
Mais t'avais une serviette en particulier, elle avait des trous.
Mm-hmm. C'est pour mettre le pénis. C'est pour mettre le pénis.
Faut pas que tu le sèches aussi.
Non.
Tu sèches tout ton corps, mm-hmm. sauf lui. Mm-hmm. Tu le fais sécher à l'air.
Et ça, c'est l'air qui s'occupe de faire sécher le pénis.
Bref, c'est important, je trouve, des fois aussi d'avoir des amis en dehors de notre cercle de travail.
Il est dans notre cercle de travail,
non,
pas
mais
mal.
Je sais qu'il travaille en communication, là, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, on n'a pas nécessairement de gig avec lui, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de podcast, là, c'est juste que je
l'ai dit. On n'a pas de tout notre cercle, c'est des... C'est
un des plus beaux jours de l'an qu'on a passé quand on était coloc, on écoutait Canal Vie en boucle. On était chacun sur un sofa, puis on jouait au Monopoly, chacun sur notre selle, mais ensemble, sans se parler. C'était exceptionnel.
Et c'est ce jour-là que tu as réalisé que je suis peut-être autiste. Peut-être que je suis le spectre de l'autisme.
Ou que je suis une grande agente immobilière qui s'ignore.
Peut-être! Mm-hmm. Ah, ton blazer quand même!
Je me souviens d'avoir écouté, il y avait notamment l'épisode de Jean Héroldi, tu sais, qui mettait les madames dans des boîtes.
Oui, ça, c'était bon. Ça, c'est super qu'on dit... Mm. C'était tout le long de projet télé. Les gens se sont fait dire non. Puis en studio, la télé, puis ils font « Ah ouais? » On m'a dit non. Mais il y a l'énergumène qui va à Place Versailles puis qui met des madames en dépression dans des boîtes. Puis il y a des gens qui... En plus, c'est des gens à 3 heures qui parlent, ça.
Oui, c'est clairement en plein milieu de la journée. Bref, ceci dit, un année, il y avait une madame dans la cinquantaine, tout à fait adéquate, là, je veux dire, un magazine, puis elle fait son petit train.
Okay, tranquille.
Puis là, il la met dans la boîte. Mais là, je me rends compte que avant la transformation, elle a la même monture de lunettes que moi.
Extraordinaire.
Puis moi, j'avais genre 26 ans. Puis j'étais comme, ah, peut-être je devrais les chats. Tu vois, ça, ils m'ont eu aussi. Ils m'ont fait sentir inadéquate, moi, avec. Mais je l'ai encore à ce jour. Un coup, t'achètes des lunettes, puis t'as vu, change pas. Pourquoi changer? J'assume, mais j'y pense vraiment souvent. Des fois, je suis comme, j'ai les lunettes de la madame d'âme.
Non, mais t'as que la madame s'est dit, ah, j'ai les lunettes d'une jeune fille hip de 26 ans.
Non, ils ont
mais
changé.
Mais ce qu'ils savent pas, c'est que t'es pas hip. t'es vraiment pas hip. T'es plein d'affaires, mon amour, là, mais t'es pas hip. Ça me fait, oui, cette fille, cette femme-là.
Puis il y a vraiment le moment, tu sais, où est-ce qu'il enlève, puis il fait, ah, beaucoup.
Là, elle est jolie, enfin. Un peu comme dans She's All That, tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est enlever les lunettes, puis là, soudainement, c'est un pétard.
C'est laver les cheveux, puis elle a enlevé ses lunettes.
C'est dans She's All That, là, quand ils font croire que c'est une fille très, très laide. Avez-vous des yeux dans cette école secondaire-là? Oui.
Ah oui, elle a une salopette, puis elle fait juste regarder par en bas.
Elle a les plus belles lèvres du monde. Si elle est laide, ouais.
Non, je comprends, c'était beaucoup ça à l'époque, hein? Princess Diaries, puis tout ça. Mm-hmm. Ça t'a marqué.
Oui.
Mon amour.
Parlant d'amis.
Oui.
C'est à mon tour d'inviter un ami, un gars qui... J'ai fait de l'école de l'humour, un gars qui me connaît depuis très longtemps, qui me connaît depuis 11-12 ans. Michael Archambault!
Salut!
Que j'ai rencontré à l'école de l'humour!
Oui, effectivement. Les deux, notre meilleure période de notre vie, probablement.
On était très jeunes, mais rappelle-moi, j'ai eu 20 ans à l'école. Tu es rentré genre 17-18?
Oui, j'ai attendu d'avoir... je voulais rentrer l'année d'avant, mais il fallait avoir 18. Fait que je faisais les cours du soir. Ou là, tu sais, après les cours, les gens, on va prendre une bière. Puis j'étais à l'époque où, ben non, j'ai... Mon père vient me faire un livre, puis j'ai 17 ans. Fait que là, je suis rentré à l'école d'humour après 18.
T'habitais-tu à Montréal ou tu...
Ouais, okay. Ouais, ça, il me faisait pas comme un livre jusqu'à Québec à chaque soir. Mais effectivement, c'est comme loin à Montréal quand même, puis j'étais un petit peu peureux, fait que j'avais besoin de mon papa qui vient me chercher.
T'avais-tu fait le cégep ou même pas?
Oui, j'ai fait un deck en cinéma. Okay. Là, j'étais au cégep en faisant les cours du soir à l'école de l'humour. Okay. Dès que j'ai fini le deck, je rentre à l'école. Ouais.
Il est motivé, Mickaël.
Complètement motivé.
Mais je savais que depuis, je pense, j'ai comme 6-7 ans, je savais que je voulais être auteur, fait que j'avais un but. Puis j'attendais qu'à l'école, ils me laissent rentrer. Là.
Ah, c'est intéressant ça. Tu veux être auteur de romans, auteur de télé?
De tout. Moi, je voulais vraiment écrire. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, ça serait le fun quand même de pouvoir mettre de la bouffe dans mon frigo éventuellement. Fait que c'est là que je me suis dit, ouais, ça, des romans, ça serait peut-être pas pour tout de suite. Puis là, tout ce que je faisais avait toujours de l'humour. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, l'école de l'humour, vu qu'on apprend quand même plein de choses, t'apprenais pas juste la scène, je me suis dit, ça serait pas pire pour moi. Puis j'hésitais, je savais pas si j'étais vraiment bon pour ça. Puis à un moment donné, c'était à l'époque du premier en route. Je ne sais pas si vous savez, ouais. Khalil n'était pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui quand même. Tu avais une moitié qui était quand même
professionnelle.
Très bonne. Oui. Tu avais une autre moitié qui était ou professionnelle depuis beaucoup trop longtemps aussi des fois. Là, que c'est pas une
Oui. Quand ça fait 10 ans que tu fais les bars, personne ne te connaît, il y a peut-être une raison.
Ben c'est ça. Mm-hmm. C'est comme ça un peu qui a fait le déclic de « Ah, ben finalement, je pense que je serais capable. » Pas d'être sur scène, mais il y a certaines blagues, je pense que je suis capable d'accoter ça. Fait que là, c'est là qui me décide de me lancer à l'école.
Est-ce que tu te souviens des textes que tu as envoyés?
Oui, j'ai envoyé un sketch puis un monologue, si je me trompe pas. Le sketch, je me souviens plus, mais le monologue, c'était sur les marques de céréales, écoute. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris, là. C'était pas très original.
Il n'y avait pas de faute, il y avait des virgules à la bonne place.
Oui, c'est ça. Ils ont vraiment aimé ma ponctuation. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris, là. Mais c'était des jokes de cric-crac-croc et des Rice Krispies, là. Ouais, c'était ça. Je sais pas ce qu'ils ont vu là-dedans, là. Mais...
Wow! Parce que Mickaël était très bon à l'école. Il était encore très, 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 très bon. J'aurais jamais cru que ton audition était aussi nul.
Je sais pas. Ben écoute, je pense quand t'arrives à l'école, forcément, t'es pas bon. Mais ça prend un certain talent pour décoder le talent en dessous de ces blagues-là. Mm-hmm. T'as beaucoup, beaucoup de marbre, puis tu vois un petit potentiel de bourgeon qui peut fleurir là-dedans. Je sais pas ce qu'ils ont vu, là, mais...
Est-ce que tu as une audition aussi en personne pour le programme auteur?
Oui. En fait, il y a une entrevue après.
Okay. Oui, parce qu'ils veulent s'assurer que t'es pas fou. Ils veulent s'assurer que t'es pas un gars qui se prend avec des couteaux, puis qui veut mordre.
Puis que c'est toi qui l'as écrit aussi.
Oui, ça se pique de piquer des affaires.
Oui, mm-hmm. Non, effectivement. Puis après ça, on avait une journée live avec, je pense, c'était peut-être 20. Puis là, il fallait écrire des sketchs d'actualité. Ils donnaient des sujets, puis il fallait écrire de quoi là. Ouais,
ben, okay. Mon souvenir, c'est le stage, et c'était une journée séparée en deux. La matinée, ils te donnent des journaux, puis il faut que tu écrives des blagues et des idées de sketchs. En après-midi, il te fait un brainstorm. Ouais, ça, ce qu'ils observent, c'est pas si t'as des bonnes idées brainstorm, c'est observe, t'es-tu capable d'interagir dans un groupe sans te battre?
Ouais, c'est pas ça, la base, là. Hein.
Et moi, j'ai réussi. J'ai réussi. Et ensuite, et de ça, t'écris un sketch. Et...
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment, il observe... Oui, c'est bien, oui. Il observe vraiment, t'es-tu capable d'interagir pendant une demi-heure sans que le monde fasse... Aïe, il y a une atmosphère difficile.
Oui, je comprends.
Puis finalement, tu vois, je suis pas sûr qu'ils ont tous bien pris, pas tout fait de l'audition, parce qu'il y en a qui après, tu vois, ah, ben ouais.
Je comprends.
Dans le rendu, c'est différent.
As-tu des souvenirs, à part le truc qu'on va parler, as-tu des souvenirs de l'école de l'humour?
Oui, quand même. Mais c'est ça, beaucoup, toi. T'étais quand même... mettons, on était aux antipodes quand même.
Oui,
l'autre. Moi, j'étais très élève modèle. Je parlais pas beaucoup. Mais il a fallu que les profs fassent une intervention pour que je parle plus.
Ah ouais?
C'était pas arrivé.
Non, j'ai pas eu cette intervention-là, moi.
Je me souviens beaucoup de toi qui se mettait beaucoup trop de crème sur les bras, mais tu sais, comme jusqu'au coude. Là,
pourquoi?
Pendant que le prof... Pour attirer l'attention, j'imagine. Le prof parle, puis là, t'entends des bruits, puis là, tout le monde se retourne, puis t'as mis vidé un moitié de pot de crème au complet sur les bras. Puis là, j'ai les bras secs, c'est l'hiver. C'est dans un cours.
L'autre jour, il a fait ça à la maison. Il a pris, genre, toute une grosse push de crème. Puis là, j'arrive dans le salon, je suis comme... T'as-tu pris ma crème à main, mais ça sent comme si...
J'aime ça, la crème.
Oui, puis c'est ça, il en avait trop pris, ça m'était mis partout. Fait que c'est un pattern, finalement.
J'aime ça, la crème.
Ouais, non, vraiment. C'est dans un cours qu'on apprend les comparaisons puis les règles de trois. C'était vraiment pertinent d'avoir les mains vraiment humides.
Quand je jouais au hockey cosum avec des amis dehors, on m'appelait crème solaire. Parce que j'arrivais blanc, crème solaire.
Ben, des fois, tu te mets la crème solaire, tu t'en mets aussi sur tes oreilles, ce qui est important, là, I get it, là, mais...
Il y a des limites à tout.
Ça reste blanc longtemps, là, dans les creux, là.
T'as-tu d'autres souvenirs avec de l'école?
Oui, je me souviens. Tu te souviens-tu aussi de ton imitation de Richard Martineau? Mais j'ai l'imitation, là, c'était pas...
Veux-tu le raconter?
Je sais plus c'était dans quel cours, mais...
C'est le cours sur l'actualité qui était donné par Christopher Hall.
Ah oui, ça, c'était... On a appris beaucoup.
C'était wow. sur le cours de chronique d'actualité.
Okay. Oui, ça, je me souviens. Puis je me souviens que, tu sais, dans tous les cours... toujours, on se rossait un petit peu. On glissait des blagues. Forcément, avec Christopher Hall, il y en avait beaucoup sur lui. Puis il prenait pas tout bien.
Non, il aimait pas ça!
Non, il était vraiment susceptible...
Fait que là, le prof devenait soudainement très froid pendant 5 minutes.
Parce que là, on faisait des blagues sur le fait qu'il joue de la clarinette.
Ouais, mais là, c'est quand même comique. Là.
Ben, il n'y a pas trop drôle.
Mais non.
Okay. Mais mon imitation, je m'en souviens, à mon souvenir, c'est moi qui criais.
Oui,
qui
ça,
disait,
oui.
J'ai tellement des bons...
Toutes tes imitations, en fait, c'était souvent ça. Là, mais...
Toutes mes interventions, c'était crier. Et c'était, j'ai tellement des bons arguments que je peux même vous convaincre en G-string, puis je vais me mettre en G-string.
T'étais debout sur le bureau, baissé pantalon, puis tu criais, je suis Richard Martineau, écoutez-moi, je suis fauné, ballonné, je suis Richard. Puis là, tu criais ça pendant 10 minutes.
Je suis fauné, ballonné.
Il disait ça à une époque, je pense.
Moi, j'avais jamais entendu ça. Je sais pas si c'est jamais ça encore, c'est toi qui as inventé ça ou lui.
Je suis fauné, ballonné.
C'était toute une imitation. Oh, c'était comme niveau Pierre Verville, André-Philippe Gagnon, c'était ça, là.
Pareil, puis c'est très actuel.
Oui.
Puis tout ça, c'est une critique de notre société.
Ah, tout à fait, vraiment.
Ben oui, c'est sûr, les médias.
Encore aujourd'hui, quand j'imagine Richard Martineau écrire ses chroniques, j'imagine comme ça, là. Il est debout sur son bureau.
Toute la classe, c'est sûr que de temps en temps, ils voient Richard Martineau, ils sont comme...
Les images de G-String, à ce moment-là.
Mais le meilleur moment de l'école de l'humour. J'ai parlé à deux princes, mais là, j'ai quelqu'un qui l'a vécu.
Mm-hmm.
On a assisté, Michael et moi, au meilleur roast de tous les temps.
OK.
C'est quoi, j'en parle un peu, puis si t'es à l'aise, interviens, ou si je me trompe.
Tout à fait, parce que comme quand tu le comptais à deux princes, c'est exactement comme ça, je m'en souvenais. Les moindres petits détails, ça nous a marqué, je pense.
Il y avait un gars de notre cohorte... Tu sais, j'ai fait des jokes sur le fait que tu étais peut-être autiste. Lui, il n'y a pas de peut-être. C'était pas mal.
Ouais.
Faut pas diagnostiquer. Des fois, quand tu vois une jambe de l'autre bord, oui, tu as la jambe cassée.
Oui. Lui, des fois, tu peux prendre aussi les informations puis les traiter. Oui.
Voilà, les fois. Oui, c'est un oiseau. Le truc dans le ciel avec une frite du McDonald's.
Faut pas juger, mais des fois, il y a des codes qu'on reconnaît.
Voilà.
D'ailleurs, juste pour bien laisser, avant que tu racontes l'anecdote, tu te souviens-tu, une fois, on avait eu François Avard qui était venu donner un cours, puis là, tout le monde est comme un peu stressé parce que, ben, c'est François Avard. Puis, c'est, bon,
oui, il y a des gens qui sont là parce qu'ils voulaient.
C'est ça, c'est l'auteur le plus connu au Québec. Puis là, lui, évidemment, il s'était dit, il faut que je l'impressionne, il va peut-être m'engager, tout ça. Fait qu'il est arrivé avec tous ses livres de François Avard, puis ils avaient mis sur son bureau, puis en m'en disant rien, juste comme si François allait faire, oh, il y a mes livres, je t'engage. Mais c'était beaucoup, tu sais, qui était toujours très, très, très business, puis très, c'est ma chance, là, tu sais.
Oui, c'est ça.
Puis je pense au roast, c'est pour ça qu'il s'était donné autant, c'est qu'on roastait Louise Richer. Mm. Puis je pense qu'il s'est dit, là, faut que Louise me trouve bon, tu sais, là, c'est ma chance.
Il a tout donné.
Je vais percer, là.
Ouf.
Ben moi, il a percé. Il va jamais sortir de ma tête.
Non, effectivement. C'est son highlight, c'était ça.
Il habite dans ta tête.
Oh oui. Comment expliquer ce roast-là?
Mais là, dans quel contexte c'était un roast? Quoi c'était, genre?
Un cours de roast.
OK,
c'était c'était un cours d'écriture scénique avec Nicolas Snick Boucher. Nicolas qui écrit beaucoup, beaucoup. Si je me trompe, tu peux toujours intervenir.
Oui.
Et à chaque semaine, on apprenait, mettons, écrire pour un gala, ensuite écrire pour un show de variété. T'adaptais ton écriture à chaque semaine. Là, cette fois-là, c'était, on écrit un roast. Et il s'est dit, je me suis entendu avec Louise Richer, on va roaster Louise Richer. Fait que pendant une semaine, écrivez un texte. En plus, c'était pour son anniversaire.
Mon Dieu, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Oh, oui.
L'anniversaire!
Un beau cadeau.
Oui.
Oh my God.
On va roaster chacun notre tour Louise Richer, allons-y. Et il omet de dire, c'est une être humain.
Elle a des sentiments.
Elle a des sentiments et tu veux la croiser.
Des sensibilités, oui. Oui, ça reste ta directrice de programme pour le reste.
Oui,
puis il y a un roast, il faut que ça soit drôle.
Oui.
Pas juste méchant.
Oui, puis t'as connais pas, monsieur. Maintenant, c'est ton...
T'es pas d'intimité, là.
Voilà.
Ouais. C'est ça, ouais.
Faut aussi savoir, sa rupture avec Guy Lepage était récente.
Ouais.
Fait qu'il s'est dit, c'est là-dessus que je vais taper.
Ouais, mettre le doigt dans le bobo.
Alors, le roast de ce gars-là. Que je vais pas nommer. Genre, pour ça, je l'aime beaucoup. Puis, si je le vois, ça me fait plaisir. Il n'est pas méchant. C'est juste, malheureusement, il ne comprend pas les codes. Puis, quand tu ne comprends pas les codes, il se met à expliquer pourquoi. Il se met à expliquer que elle adore les gauchers.
Ouais, attends, là, tu manques. Avant de rentrer dans son roast,
okay.
C'est que là, je pense qu'il s'était dit, c'est ma chance encore là, c'est avec Louise. Fait qu'il avait tout il avait commencé avec ses meilleurs gags, mais qui avait aucun rapport avec Louise au début.
Mais qui était juste violent,
ouais, je me souviens d'un en particulier. C'était comme quoi, il comprenait pas les femmes parce qu'il a refusé d'avaler sa semence.
Les femmes insistaient pour avaler sa semence parce qu'ils voulaient pas être tomber enceinte de lui.
C'est ça, quelque chose d'un, mais c'est comme vraiment hard.
De nulle part!
Aucun rapport
avec Louise,
mais c'est comme 3-4 comme ça. Que je rentre, mais quelle heure, là, tu sais.
Lui aussi, il faut le mentionner, c'est quelqu'un qui est pas bon socialement. Fait comment il racontait? Il a l'air un petit peu d'un tueur en série. Là. Il comprend pas vraiment ce qu'il dit. Il rit à ses propres gags, mais c'est pas vraiment des gags. C'est extraordinaire.
Ça, c'est un peu moi aussi, ça.
Un peu tueur en série. D'ailleurs, une fois, dans un cours de sketch, vu que c'était un sketch, il fallait lire chacun, puis tu avais lu avec lui, puis ça avait pas vraiment ri beaucoup. Puis après ça, il trouvait que c'est parce que c'était toi qui avais pas assez.
T'avais mal rendu,
ouais.
Mais oui.
Ouais, j'avais mal interprété son... Puis je me rappelle avoir fait, je vais faire des cours de jeu.
Je vais faire ce que je peux, là.
Alors, oui, c'est trois premières. Là, ensuite, il explique. Il part de sa rupture. En passant, j'ai fait mes jokes. Hey, ton homme t'a laissé. Ouais. Et là, il explique qu'elle comprend ce qu'elle fait.
OK.
Elle comprend qu'elle désire. Parce qu'elle est gauchère. Puis il explique qu'à chaque fois qu'elle lui parle, elle lui prend la main gauche, puis elle touche le bras gauche. Parce que c'est comme ça qu'il baisait. Là, il explique comment...
Qu'il baisait avec son...
Oui. Là, elle explique comment lui... Plutôt, il explique comment elle et Guy Lepage baisaient. Il se lève. Oui. Il dessine au tableau.
Oh. Oui, il dessine elle. Puis, en faisant une énorme touffe, ce que je me souviens. Comme c'est un gag. Comme vraiment un gros tourbillon. Mais tu sais, c'était juste ça le gag. Ça allait pas plus loin que t'es poilu, madame.
Le coup, c'est ailleurs. C'est le meilleur endroit.
C'est ça. T'as pas besoin d'aller plus loin, le gag.
Je me souviens, un de nos collègues, plusieurs de nos collègues étaient comme ça.
Ouais, le capuchon. Oh, là, il serrait le capuchon avec les cordes pour avoir juste deux yeux qui regardent.
C'était mal. Oh, puis pas un rire.
Ben non.
À plusieurs reprises, Nicolas, Nick Boucher, disait ça va. Puis il parlait plus fort.
Mon Dieu!
Puis là, il y avait le graphique, puis il se dessinait lui à côté, puis il expliquait comment, d'un point de vue ergonomique, parce que lui aussi était gaucher, il baiserait vraiment mieux que Guy Lepage, parce que lui, il était gaucher. Puis là, il faisait, tu sais, comme ça, je pourrais te toucher là en même temps que les seins, puis là, ça serait vraiment mieux pour toi. Là.
Oh
là,
my God!
C'était un schéma, là.
Ouais. C'était bon. Pourquoi c'était bon?
J'en doute pas, oui, mais à un niveau, oui.
Oh, ça nous a marqué, là.
Ah oui!
Oh my God! Puis ça finit, il finit ça comment? C'est, je veux dire, puis là, c'est juste comme...
Quand ça finit? Mané, Nick,
OK, merci, c'est bon.
Assez fort pour que tu peux pas aller plus fort que ça.
Ouais. Oh my God! C'est beau. Puis Louise était présente, là,
c'était elle était là, puis là, tu es régénée, puis...
Oui, parce que comment tu veux réagir?
Oh mon Dieu!
Mais je me suis dit... Puis, t'avais-tu une bonne?
Oui, vas-y.
Ils l'ont plus jamais refaite.
Ah non?
Il y a plus jamais Louise de Louise. Puis ça, comme... Ça a arrivé un an.
Ouais. Je me souviens, avant le début du cours, avant que Louise était là, le Snick avait tout lu nos textes. Puis là, il disait « Ouais, j'ai hâte de voir, il y en a qui sont allés loin, il y en a qui sont allés loin. » Puis là, moi, je me sentais, j'espère que mes gags n'étaient pas trop loin. Puis finalement...
Puis des fois, ces gags, c'était « T'as raté ta carrière d'actrice. »
Oui, c'est ça. C'était juste méchant. Ça. Il y avait pas
t'as
de
raté ta carrière d'actrice.
Point.
Ouais.
Si, ouais.
Ben, attends. Parlez donc un peu, je peux le trouver. Je peux le retrouver.
Comment tu peux le retrouver?
Moi, j'allais chercher les textes. Là.
Ah, j'ai dans vos courriels, genre? Vous les avez tous envoyés?
Ben, on les imprimait, c'était version imprimée, puis moi, j'en avais quand même beaucoup, version encore papier, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Oh my God!
Je l'ai.
Impossible! Tom, on peut pas lire ça! Oh mon Dieu!
Puis je me souviens que à la fin du papier, il avait mis son dessin aussi. Là.
Juste deuxième paragraphe. C'est une actrice moyenne qui a un billet pour la gloire parce qu'elle couchait avec Guy Lepage.
Oh my God!
Je lis dans les détails comme un devin dans les entrailles de canard. Animal dont tu as le rire, d'ailleurs.
Tabarnan! Oh my God! Est-ce qu'il y a le dessin en bas?
Non, il n'y a pas le dessin, malheureusement.
Oh mon Dieu!
Bon, on voit ici Guilla au lit, à genoux en vue aérienne, et Louise étendue sur le côté. Je rajoute beaucoup de poils à l'entrejambe.
Et voilà.
Il y a des escaliers.
Et voilà.
Oui. Il était gaucher. Pendant la seule manière ergonomique. Ouais.
Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, aujourd'hui? On sait-tu?
On ne dira pas. J'ai une petite idée.
Ah, moi, je ne sais pas. Mais...
Ah. Ben, on lui souhaite du bonheur. À Louise ben, aussi, surtout.
Mais, attends. La joke. Oh, qu'on on se souvient tous. Tout le monde dans cette cohorte-là, on se souvient de la joke.
Mais c'est fou, ça fait 12 ans qu'on s'en rappelle exactement. Mais on l'a jamais relu
depuis 12 ans. Traumatisant.
Ça, Louise, on appelle ça avoir un esprit pervers. T'es comme les filles qui recrachent ma semence, le symbole de ma virilité. Comme ça, ma semence est pas bonne. Hey, si tu penses que je ferais pas un bon père, dis-le-moi en pleine face, prends pas des moyens détournés.
Je pense que je vais refaire comme...
Oh my God!
C'est bon, ça, cette joke-là, j'arrête.
Oh my God, mais ça, mais voyons donc, il l'utilise pour hate envers toutes les femmes.
Ah oh ouais, c'est habile, là.
Un vendredi en
ordre. C'est complètement...
Oui, puis après, on va dîner.
Ah oh ouais, c'est ça.
Après, on va manger un chichetaouk.
Oui, puis la façon que l'école est faite, c'est super petit, là. Tu les croises tout le temps, les profs, là, sont dans leur bureau juste
rentres,
à côté.
Tu dis bonjour, puis...
Oui.
C'est extraordinaire.
Ouais. Nos blagues devaient pas être volées très très haut non plus. Ça devait pas être très bon, mais au moins c'était
on n'a jamais dit qu'elle...
on n'a pas insulté. C'était pas misogyne.
Oh my God.
Moi je peux pas être sûr que j'ai aucune joke misogyne dans cette année là. Mais on se rappelle
la vie,
que
ça, ouais, ça t'est arrivé.
Mais... Te rappelle que j'étais debout sur un
G-string.
Fauné ballonné.
Mais ça, c'était du grand temps.
Oui, ah, oui, ça, c'est. J'ai piqué là.
Toi, les deux que je me souviens le plus, c'est ça, c'est ces deux numéros-là. Fait que, t'es quand même dans mon top 2 mémorable.
Ouais. Je portais. Oh, ici, à l'époque, je portais des shorts de basket en dessous de mes jeans parce que je voulais pas m'acheter de ceinture.
Ah, oui, ça.
Ah, oui, ça, c'est cette grande époque.
Oui, ça compte, ça, oui.
Je portais du linge weird à l'époque aussi, hein.
Oui, oui, non, clairement. Puis, tu sais, tu voulais pas porter de ceinture, mais les shorts faisaient clairement pas le travail, là. Parce que ça descendait très bas, là. T'aurais besoin de plusieurs paires de shorts de basket pour
cette
compenser.
Cette obsession pour le bas du ventre. Hein.
Ouais.
Oh my God.
Mais c'est une belle année.
Ben, je suis contente que tu sois... Est-ce que toi, t'es heureux à ton passage à l'école?
Ben oui, forcément, oui.
Est-ce qu'après ça, t'as eu d'autres parcours académiques ou t'as commencé à voler tes propres ailes puis faire tes trucs?
Ça a quand même décollé tout de suite, mes affaires. Mais en même temps, vu que je suis rentré à 18 ans, j'avais comme promis à mes parents que j'irais à l'université après. Ils me disaient, ça va prendre un certain temps. Puis finalement, ça a quand même parti assez vite. Mais en même temps, je faisais un bac à l'UQAM en littérature. Okay. Fait que j'ai quand même fini à temps partiel. J'y allais le soir. Fait que ouais, j'ai fait un bac en même temps.
Wow. Good job.
Ah, vous êtes deux de l'UQAM.
Deux scholars.
Qu'est-ce que t'as fait, toi, l'UQAM?
J'ai fait stratégie de production.
Qu'est-ce que t'as fait à l'UQAM? Ah, c'est une question. Qu'est-ce que t'as fait à l'UQAM?
J'allais prendre des cafés au café de l'ESG, puis j'allais boire des bières au Grimoire. Mais j'ai fait stratégie de production culturelle et médiatique, qui est le programme de communication côté prod, que j'ai bien aimé quand même. Là. Mais tu sais, c'est fou à quel point, quand t'es à l'université, tu penses tout savoir, puis t'arrives dans le milieu du travail, puis t'es comme, chez rien. Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand t'arrives dans l'application, c'est comme, tu te rends compte que finalement, t'apprends des méthodes de travail, t'apprends à travailler avec les autres, t'apprends à respecter des échéanciers, mais après ça...
Ouais, c'est un peu des skills sociaux de base, là, mais ouais.
Ouais.
Mais effectivement, moi, surtout vu que je travaillais en même temps, puis là, j'avais des cours de scénarisation aussi, forcément, là, j'étais comme plus motivé parce que ce qui passait après ça à télé, puis que je gagnais ma vie avec ça, puis là, j'étais, j'ai hâte que ça finisse un peu.
Oui.
C'est quoi les premiers projets télé sur lesquels tu as travaillé?
J'ai fait la première mouture de Caméra Café, qui était mon stage.
OK.
Puis... Ironiquement, je veux dire, il a volé le stage à ce jeune homme-là. C'est lui qui a
Je
m'en joke. Que c'est toi qui as eu le stage avec François Havard.
Ouais, ah oui, tu as fait.
Tu as volé le stage de l'autre gars.
Je pense
que t'es un fouetteur. Je t'amène ici en disant, bon, là, t'as
barré. Non, mais j'ai volé le stage. OK, excusez.
Mais je vais parler de mon stage.
Il aurait pu le vouloir, mais... Mais OK, mais effectivement, peut-être parce que je n'ai pas apporté ses livres, c'est ça qui a marché. Fait que, ouais, ça a super bien été. Puis après ça, ils m'ont engagé pour l'année d'après.
Très cool.
Là, ça a bien parti.
Ouais. Toi, c'était cool.
Toi, c'était pas le show télé à Télé-Québec des Justices Masqués?
Ouais!
Oh. Vous avez étiez plusieurs à le faire, hein?
Je sais pas.
Il me semble que, je pense qu'il y en a d'autres.
T'écrivais pour les Justices Masqués.
Le show télé, en plus.
Le show télé,
là,
que tu dirais genre 6 semaines.
Tout
le
monde s'en rappelle. Mais oui, c'était quoi le show télé des Justices Masqués?
Je le sais pas. Eux autres non plus, ils font je sais pas.
Mais tu sais, c'est quoi? C'était-tu des sketchs ou quoi?
Moi, je m'occupais des jokes d'actualité. Il fallait faire des bribes d'actualité.
Ouais.
Ça, c'était mes bribes. C'était gros de même. Puis ça allait... C'était pourri, ce que j'écrivais. Pourri. Ah oui, c'était terrible. Tu dis oui. Pauvre.
Ouais, je comprends.
Pauvre. Tu sais, je veux dire, ça, t'écris, ça va très mal si tes blagues ne sont pas assez bonnes pour les Justiciers Masqués.
Ouais, c'est effectivement, tu dis, ouais.
Ouais. Je me rappelle, la seule réunion que j'ai participé, personne ne savait que j'avais un stage.
Il pensait que t'étais le gars qui apportait de l'eau? Je comprends pas.
C'est comme impossible que ce gars-là écrive des gags?
Non, c'est je m'étais entendu avec le script éditeur. Le script éditeur n'a pas parlé à personne de la production, y compris les animateurs.
Fait que les fois, c'est qui le gars qui est là?
Ouais.
OK.
Ouais. Ouais,
ça, ah, c'est... puis là, c'est un stagiaire.
Il pensait que c'était quelqu'un pour vrai. Il pensait que c'était, ah, il y a un homme qui a des problèmes de santé mentale qui s'est assis à notre table.
Qui vient dire des jokes, puis tu fais, ouais, c'est qui?
Moi, pour... Mais pas une question que j'avais, ouais. Juste, pourquoi cet homme est masqué? Qu'est-ce qui se passe?
Mais pourquoi ils s'appelaient les justiciers masqués, ces gars-là?
Ben, ils faisaient des coups de téléphone. C'est une bonne question. Ah. Ils étaient masqués, ils se cachaient.
Ils se cachaient derrière le téléphone. Temps, ouais,
pour un show radio masqué, c'est vrai que...
Ouais!
Ouais!
C'est... Je sais pas, mais... Ouais, puis c'est pas appelé faire pogner le pape, je sais pas à quel point c'est de la justice, là.
On va l'affaire, le pape. Le gars, il a 77 ans, il comprend rien de ce qui se passe. Il sait même pas qui est pape.
Tu as pranké le pape au téléphone, c'est pas
pourquoi
trop
pourquoi je t'habillais de même? Pourquoi le monde m'écoute? Qu'est-ce
il parle à peine français, là.
Ah, oui, c'est un polonais pratiqué. C'est fou, hein, ça. Je me souviens... un show de Réal Bélan que j'ai vu, il faisait des coups de téléphone, mm-hmm. Il en faisait à la radio, ben oui. Puis il en faisait sur scène. Ouais. Puis j'ai vu un show de Mike où Mike, il appelait le monde ouais. Aussi, Mike Ward.
Ouais. Un de mes amis a déjà été voir Mike Ward, puis Mike Ward, avant le show, il disait « Donnez-moi le numéro de téléphone ouais. Que je peux appeler. » Puis mon ami il a mis le numéro de téléphone de mon père.
Il avait-tu appelé ton père?
Malheureusement, pas appelé mon père.
Il est passé à côté d'un chef-d'œuvre.
Oui, ça aurait été extraordinaire, mon père puis Mike qui se parlent.
Ah ouais, je me souviens de ça, c'est il récoltait les numéros de téléphone, c'était sa blonde qui récoltait les numéros de téléphone à... ouais, à l'entrée. En tout cas, c'est au Spectrum, ça existe même plus, il y a des condos maintenant, je pense à cet endroit-là. Rip le Spectrum.
Tu as commencé à écrire des romans quand?
Mon premier sorti en 2018, mais ça fait comme j'ai tendance, je savais toujours que je voulais écrire des romans, puis ça me restait en tête, puis à un moment donné, je me sentais prêt, puis j'avais comme un trou entre deux contrats, j'avais je pensais un mois et demi de libre, puis je me disais, là, ça fait trop longtemps que je suis en tête, c'est là que je me lance.
Moi, j'ai su que tu voulais écrire des romans quand je t'ai vu lire Notre-Dame de Paris. Je me suis dit, pour lire Notre-Dame de Paris, il faut que tu aies un amour de l'écriture.
Ou un
amour
bac en littérature.
De s'améliorer dans l'écriture.
Ouais, ben, j'aime quand même lire de tout, effectivement. Mais c'est pour ça qu'au début, je savais même pas ce que j'avais envie d'écrire, parce que j'aime vraiment lire de tout. Là, fait que mes premiers étaient plus humoristiques, parce que c'était plus proche de ce que je faisais, forcément. Mm-hmm. C'était comme plus facile. Je me sentais un peu moins imposteur. Parce qu'au début, j'étais comme, ben, tu sais, vous, je lis Notre-Dame de Paris, mais j'écris clairement pas comme Victor Hugo.
Bizarre!
Fait que, je sais pas pourquoi.
Bizarre, t'écris pas des longues descriptions d'une église, en particulier gothique. Pour... Parce que j'ai cru comprendre que, je pense, c'est Notre-Dame de Paris. Si je me trompe, pardonnez-moi, là. Il a, puis en plus, tu es en littérature, peut-être que c'est plus que moi. Bon. Que Notre-Dame de Paris, ça a été écrit avec l'idée de garder
le patrimoine
gothique. C'est une manière de. C'est pour ça qu'il y a autant de descriptions d'églises, c'est pour ça qu'il y a autant de descriptions de gargouilles. C'est une manière de que les gens se rappellent dans une œuvre de ce courant artistique-là. Si je me trompe, C'est pas comme si je fais de la propagande anti-vax. c'est pas.
Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va en mourir.
Il n'y a pas une gargouille qui va tomber.
Mais comme quand j'ai lu la version écourtée des Misérables, j'étais comme une chance, c'est la écourtée, ouais. Là, parce que. Je sens la vibe. Là. C'est très réussi. Là. Je la sens, la vibe. Là. Mais je peux pas imaginer que c'est quoi les autres mots qui manquent.
Oh non, c'est très long. Avez-vous écouté le dessin animé? Vous vous souvenez-vous de ça? Les Misérables, il y a un dessin animé. C'était pendant l'heure triste. Là. C'était une demi-heure de Rémi sans famille puis une demi-heure des Misérables à l'heure du souper. Là. C'était joyeux, là, vraiment. Là.
Bon dodo!
Ouais, vraiment. Là. Tout du monde qui perd leur famille.
Puis c'est ça, ton style a évolué comment après avoir été plus humoristique à tes débuts?
Ensuite, je vais aller vers le thriller. Tu sais, vu que je lis beaucoup de thrillers, puis je savais que je voulais aller là éventuellement, mais au début, je me sentais pas capable d'écrire un thriller parce que je voulais juste apprendre à comment construire un roman à la base. Puis là, un thriller, c'était plus difficile pour moi à construire parce que, tu sais, il faut qu'il y ait bien des revirements, des fausses pistes. Fait que je commençais avec quelque chose qui était plus simple pour moi. Puis ensuite, mon deuxième, je l'appelle un thriller humoristique. Parce que ça commence plus léger, puis on s'en va de plus en plus vers les thrillers. Puis là, 3 et 4, là, c'est vraiment des thrillers. Je pense que c'est là-dedans que je trippe le plus parce que ça vient comme combiner toutes mes forces parce que je glisse de l'humour aussi dedans. Fait que là, je pense que c'est un équilibre qui me plaît bien quand même. Puis ça fait tellement différent, plus qu'à la base, on s'entend comment je gagne ma vie, c'est en écrivant des jokes.
Oui, c'était très drôle. Miguel est hilarant.
Merci, c'est gentil. Il m'a donné ton 20$ après. Mais c'est ça, c'est que...
Faut qu'il soit sa coquille, là. Il est très, très, très drôle.
Ouais, ça. Je suis drôle quand c'est les autres qui disent mes mots, absolument. C'est ça, un auteur, là. Mais ouais, c'est ça, le thriller, je mets de l'humour dedans parce que ça vient comme naturellement. Puis vu qu'à la base, j'écris des jokes, ben ça vient chercher un autre côté quand même de mon cerveau que je trouve le fun.
Si t'es à l'aise d'en parler, excuse-moi, change. Parce que t'es un ami à moi, puis je me rappelle les trucs que tu m'as raconté.
Oui, vas-y.
Tu veux-tu me raconter une fois où... Ah non, ça, c'est ton ami. T'as un ami, hein, une fois qu'il est dans la brosse, qu'il s'est passé quelque chose. Il est tombé, puis il s'est fait réveiller par quelque chose.
Ben oui, tout à fait.
Tu as parlé ou t'es pas...
Ben oui. Okay. Ben oui, tout à fait. Ben c'est pas grand-chose, mais c'était la belle
époque. Ce qui était très, très drôle de Michael à l'école, vu que c'était le plus jeune, puis il y a une intimité qui se crée, puis il y a... Notre but, c'était de faire parler Michael. Comme, c'est quoi ta vie? Quand tu sors, qu'est-ce que tu fais pour réaliser Michael? Des fois, oh, Michael, il tombe à la mort! Michael, il pisse à la brosse! Ouais, quoi? Tu bois? Fait qu'on a pris des affaires qui n'avaient pas de calice de sens. Et, venez, il a brossé avec un ami. Qu'est-ce qui s'est passé avec
ses amis? Ouais, ben, ça, c'était dans les grandes années au Fouf, là, au Foufoune électrique.
Oui, parce qu'il a 18 ans, fait qu'il apprenait
à boire. Oh, ouais, c'était les premières fois. Puis, ouais, c'est pas là que tu apprends à boire. C'est pour ça que tu désapprends pas mal. Ouais, quelques fois, ben, mes blessures aux chevilles, là, je suis souvent blessé aux chevilles, ça vient de là.
Oui, compte tout ça, pourquoi t'es blessé aux chevilles?
Ben, une couple de fois en revenant, que je me souviens plus ce qui s'est passé, mais j'ai dû me casser la cheville en marchant.
Ah, oui.
Puis là, il se blesse!
Puis là, je marchais, puis là, je pleurais, puis là, j'appelais ma blonde de l'époque en disant « Ah, je me suis cassé la cheville, t'es où? Je sais pas. » C'est genre un appel que toutes les filles aiment recevoir à 3h du matin, là. Fait que bref, puis justement, un ami, une de ces soirées-là, il se réveille dans la ruelle des Foufs, qui était vraiment très, très stérile, très propre, on sait.
Un bel endroit pour faire dodo.
Ben ça, tout à fait. Puis là, il se réveille, puis là, il sent que quelque chose le chatouille. Puis ben c'était des dents de rat.
Ah!
Fait qu'il est en train de se faire grignoter par des rats.
Oh, hein. My God!
Fait que là, même chose, le lendemain, lui, il va voir ses parents, puis là, ben...
Il faut qu'il
explique, puis là, bon, on va aller chez le médecin. Puis là, t'expliques au médecin qu'est-ce qui est arrivé. Mais là, ouais, c'est ça, j'ai trop
bu. C'est comme c'est Les Misérables 2012.
Ouais. C'était ça, là. Tu te sens pas fier, là.
Puis que faut que tu sois traité contre le tétanos.
Mais
parce que
oui.
Des rois.
Parce que le but est trop piché au fouf, là.
C'est extraordinaire.
Ah,
c'est extraordinaire.
Ah, moi, la dernière fois, je me suis fait piquer pour le tétanos parce que je voulais donner trop d'amour à un chat qui était très.
Sale.
Non, c'est le chat d'une amie, mais il était très sauvage. Il aimait pas le monde. Puis moi, je me suis dit, il va m'aimer parce que moi, je l'ai là.
Ah oh, oui, ce chat-là, je le connais.
Non, okay. Non, je pense que tu le connais.
Vous me connaissez pas personne. Je le connais, ce genre-là.
Ah,
on a
oui,
une relation.
Vrai, il est vraiment cool. On a déjà pris une bière ensemble. Non, puis c'est un gros chat, tu sais, poilu, blanc, là, un peu persan. Là.
Oui. Bon. Il y a plus de chat persan.
Ben, je ne sais pas si il est exactement persan. En
passant
à mon amour,
si tu écris un chat en disant qu'il est très poilu.
C'est... Ben, ça exclut les sphinx.
C'est tout. Voilà. Tout. Il y a beaucoup de chats qui sont là-dedans.
Mais bref, je l'ai comme pogné en cul-de-sac, là. Mm-hmm. Fait qu'il n'y avait comme pas d'issue. Parce que c'était comme une cuisine qui n'a pas d'issue.
Puis, tous les chats adorent ça.
Oui, c'est ça, exactement. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, mais lui, il s'est donné vraiment un swing et il m'a mordu, mais toute la lèvre, il m'a pogné comme vraiment une croque de toute la lèvre d'en bas. Puis là, ça m'a fait un trou. Tu sais, il y a vraiment une dent qui a percé. Là, on aurait dit, j'avais comme
un piercing.
Ouais. Mais là, j'avais vraiment comme honte d'avoir voulu donner trop d'amour au chat. Puis là, les gens, tout le monde était dehors. Puis moi, je t'en dis plus.
Tu n'as pas voulu le dire?
Non, c'est ça. Fait que là, ils ont juste entendu genre.
Ce qu'elle mentionne pas, elle devait être complètement saoule.
Ouais, ben, j'étais un peu cocktail. Bon.
Pas un peu, elle devait être complètement saoule.
Fait que là, je vais à la salle de bain, tu sais, je me rince un peu et tout. Puis je me dis,
le monde
ne sauront
pas que je me suis fait mordre par le chat.
Non, mais attends,
ils verront pas que
j'ai
la gueule enceinte.
C'est ça. Parce que là, je me dis, il y a un trou, mais on est dehors, il fait noir, ça ne paraîtra pas.
Ça siffle quand je parle, mais ça paraît pas là.
Mais là, je vais m'asseoir dehors, puis ça se met juste à pisser du sang, une grosse coulisse, mais tu sais, bien rouge, pétante. Puis là, c'est comme, Steph, qu'est-ce que t'as? Rien.
Puis comment tu peux dire, ben là, j'ai voulu pogner le chat voulait pas que je le pogne.
C'était quoi ton excuse? Comme tu t'es connecté à bière?
Ben, j'ai pas dit que c'est moi qui ai comme agressé le chat. J'ai dit que c'est lui qui m'a
agressé. Ben oui, bien sûr. T'es innocente, tranquille, dans la cuisine.
J'étais dans le coin, je voulais m'en aller, mais j'avais pas de place pour sortir. Il s'est mis devant moi. Il voulait me prendre dans ses bras.
Caramel voulait pas.
Oui, voilà. Caramel. J'avais peur que je garde une cicatrice comme si j'avais eu un piercing de
mais
menton.
Non.
Mais non, finalement, je suis correct.
Ton premier roman fait beaucoup rire parce que ça propose quoi ton premier roman?
C'est une comédie romantique, L'homme de ses rêves.
Ah, oui.
Puis pourquoi ça te fait beaucoup rire?
Ah, c'est le deuxième, je me suis trompé, oui.
Ah, ben, il fait sûrement rire aussi le premier. Là,
oui,
c'est un peu
voilà.
Moi, je comprends parce
que, je connais.
Je comprends lien rage de sucre, le deuxième. Oui, parce que c'est. Fort autobiographique quand même.
Ouais, mais c'est quoi, c'est rapport à la nourriture, c'est quoi?
Ouais, ben surtout le sucre, j'ai comme une relation très dangereuse avec le sucre, si on veut, là, qui peut moi me mettre en danger, là, pas les autres quand même. Quoique si quelqu'un cache du sucre sur lui, on sait jamais pendant un certain temps. Mais ouais, ça avait fallu genre que j'aille consulter une psychologue parce que j'étais pas capable de encore aujourd'hui, mais là j'ai quelques petits trucs d'arrêter de manger du sucre. S'il y en a proche de moi, s'il y en a loin, si faut que j'aille en chercher jusqu'à me contrôler. C'est pour ça que je ne pèse pas 600 livres. Mais puis, chez nous, là, moi, j'ai un garde-manger de moine. Là. J'ai absolument rien d'intéressant parce que sinon, ça ne t'offre pas 5 minutes.
Même, tu passes au travail.
Non, c'est sûr. Même, je mangeais des boîtes de Albrecht au complet, une boîte. Non, même sans m'arrêter, c'est pas personnellement délicieux, mais juste parce qu'il y a du sucre à rajouter dedans.
Ouais, mais là, après ça, tu passais ta soirée aux toilettes.
Ben, c'est ça, c'est moi, ben, c'était une erreur, cette collation.
Tu peux pas aller voir tes amis.
La boîte d'Albrecht,
ou manger de la chapelure à la cuillère. Puis je m'en rends même pas compte, je suis juste en train de penser à mes affaires, là. Je suis en train de travailler. Puis là, je suis en train de manger de la chapelure à cuillère, là. C'est vraiment pathétique, là.
Moi, je m'en souviens une fois, on discutait un peu de milieu, puis qu'est-ce qu'on vit, puis nos contrats. Tu avais très sur un gars juste pour rire, c'est tough. Puis, ouais, c'est tough. Parce que moi, je me disais, c'est tough, t'as l'animateur.
C'est stressant.
Puis, mais tu sais, de le gala, là, le buffet, c'est vraiment tough. Ça arrive. Quoi? Oh. Non, je vis pas ça, vraiment, mon rapport avec le crack.
Ben, c'est pour ça que je suis allé consulter, c'était quand j'étais à Piment Fort, que là, ça avait juste pas de bon sens, parce qu'on était en tournage, je pense, deux ou quatre jours par semaine. Puis, il y avait de la bouffe toute la journée. Puis, j'étais incapable de me contrôler. J'apportais mon lunch, puis là, je me dis, aujourd'hui, tu manges ton lunch, il faut y pas dans le craft, puis ça finissait toujours que j'avais mangé, tu sais, sans exagérer, comme 20-25 bartendes. Enfants qui avaient aucun sens. Puis là, le soir, je jouais au hockey ou je jouais au tennis, puis là, ce soir, t'as un match, tu sais, mange rien, là. Puis là, je mangeais comme un porc pareil, puis là, j'arrivais, puis j'avais ben trop mal au ventre, puis j'étais vraiment mauvais, puis là, demain, c'est fini, tu manges pas de sucre. Puis j'étais incapable de
D'où ça vient?
Non, j'ai pas fait assez de rencontres pour voir si c'est ça vient de mon enfance, si j'ai vu mes parents en train de baiser dans une petite DM ou je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qui est arrivé, là?
T'as mangé, oui. T'as vu de quoi de faire? T'as mangé le bartende.
Oh, là, c'est ça. Parti. Je sais pas. Mais dans ma famille, tout le monde a vraiment aime beaucoup, beaucoup le dessert, quand même. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est juste génétique, là. J'avais lu, je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est juste pour qu'on se sente mieux, là. Mais que chez certaines personnes, quand tu manges du sucre, ça fait dans le cerveau le même effet que l'héroïne. Mm-hmm. Quand là, c'est peut-être autant vrai que ton histoire de Notre-Dame de Paris, je le sais pas.
Une fois, Vice avait fait un article là-dessus, puis qu'une étude disait que les Oreos étaient plus addictifs que la cocaïne. Ouais. Là, il y a du monde qui revenait. Time out. Vous comprenez que c'est pas les mêmes problèmes de santé. Vous comprenez qu'il y a pas beaucoup de gens qui se prostituent pour des Oreos.
Ouais.
Vous comprenez que c'est très différent.
Oui,
on comprend que dans le cerveau, c'est difficile d'arrêter, mais il y a une raison aussi pourquoi c'est difficile d'arrêter, c'est que les Oreos, ben, c'est bon qu'ils font beaucoup, j'arrêterais, c'est rien que d'Oreos.
Ouais, c'est ça.
La cocaïne a m'amené, c'est que tous tes rideaux sont baissés chez vous, puis tu penses que le facteur, c'est ton ennemi du gouvernement.
Exact, c'est ça.
C'est pas la même.
J'ai pas perdu de job à cause d'Oreos, tout ça.
Voilà, c'est ça.
Mais pour vrai, ça peut créer certaines tensions. Mettons, avec ma blonde, elle sait que s'il y a de la bouffe pour elle, faut que tu le caches ou tu l'amènes à ta job parce que je suis incapable de me retenir. Puis là, mettons, c'est un gâteau, on sépare moitié-moitié, là, je mange ma moitié, puis je vais juste en prendre un petit peu, ça fait juste un petit peu. Puis là, tu sais, la moitié est rendue clairement un quart, puis là, je me sens vraiment égoïste et vraiment très con. Puis là, je le mange au complet, je me sens mal.
Finalement, c'est juste mieux qu'il en reste plus.
Puis là, j'avais peut-être oublié qu'il y avait ce gâteau-là qui existait. Mais là, c'est con, là, tu t'en vraiment mal après, fait que là, tu caches-les, là. Puis là, des fois, je sais qu'il y en a de cachés dans la maison, fait que là, je me mets à chercher.
Ah, génial. T'es comme un gars de...
Parce que quand tu sais qu'il y en a de cachés, tu m'as cherché.
Ouais, mettons, ouais. Je sais qu'il y a des lignes d'or à quelque part. Là, je sais qu'ils sont cachés. Puis là, je sais qu'il est en dessous d'une pile de linge en quelque part. Puis, parce que je suis incapable de me... Sinon, je pense juste à ça.
Mm-hmm. Wow.
C'est vraiment... Fait que pour ça, je travaille jamais de la maison. Parce que faut que j'aille comme...
La pandémie t'a dû haïr, ça.
Ouais, mais j'ai pris 45 livres pendant 6 mois de qu'on a arrêté. Je pense d'octobre à... Puis je mangeais pas si mal que ça, mais là, je pouvais plus faire de sport. Puis j'étais juste plus capable de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je mange ou pas. Est-ce que je mange trop? Est-ce que j'étais tout débalancé? Je suis en train de virer fou. Là.
Wow, mais même quand t'arrives dans un café, en plus, il y a tout le temps les belles petites pâtisseries.
Ben, c'est ça. Il vient de dire là, qu'il veut pas.
C'est pour ça que je vais pas dans un café parce c'est que ça, je pense juste encore la bouffe. Fait que je vais dans une bibliothèque où je travaille beaucoup dans le métro aussi. Des fois, j'écris dans le métro.
OK.
Ouais, je m'assois dans le métro avec soit mon ordi ou j'écris sur mon cell. Puis ça synchronise avec mon ordi. Puis là, je fais 2-3 fois la ligne verte. Tu sais, je n'ai aucune idée où est-ce que je vais. Je reste mais au moins, j'ai la paix. Puis je suis loin de toute tentation sucrée.
Wow.
Fait que, c'est ça que je fais. Fait que ça, des fois, ça veut dire que là, je sais pas où je m'en vais, puis là, j'arrive, je suis en grignon.
Moi, je faisais ça quand je faisais du speed.
Moi, je suis à jeun, là.
Moi, mes périodes de speed où ça allait très mal, je faisais, moi, des...
Mais moi, c'est une désintox, moi, c'est pour être loin de toute tentation. Fait que là, je débarque en grignon, puis là, je vois le gars de la cabine qui va se demander pourquoi je suis perdu, puis là, je reviens une heure après, je suis encore là.
C'est génial, puis tu cries dans le métro.
Ouais, mais je trouve ça le fun, parce que, c'est ça, là, j'ai rien d'autre à faire, fait que t'as pas de distraction. Puis c'est plus le fun que de fixer un même mur, parce que des fois, tu vois une madame avec un capuchon rouge, « Ah oui, capuchon rouge, ça me fait penser à toi, l'autre affaire », puis là, ça te donne des idées.
Moi, souvent, pour créer, prendre le métro, ça m'aide.
Ben oui, c'est ça, parce que souvent, t'as plein de trucs qui arrivent.
Ouais, c'est confrontant, t'es confrontant à plein de trucs.
Ben c'est ça. Fait que je le fais souvent en marchant. Marchant, ça aide beaucoup, mais là, quand il fait froid, je le fais dans le métro, puis c'est plus, t'es plus passif, puis tu regardes, puis moi, ça stimule vraiment beaucoup.
Ah, génial!
Ah, c'est fascinant.
Je trouve ça super.
Je m'excuse, on a parlé de Réo, puis je suis pas capable de décrocher. Tu te souviens-tu quand t'es...
Moi aussi, je suis pas capable de décrocher.
Ouais, c'est ça. Mais Mané, il mangeait des Oreos, puis il en prenait, mettons, 3-4 à la fois. Puis là, Mané, il m'a dit, tu penses que je suis capable d'en prendre combien? Puis là, il en a pris 8.
Il pensait être impressionné, là.
Oui, ben oui.
Ben, on en parle 2 heures plus tard.
Regarde, tu vois?
T'es impressionné? Attends, t'es avec moi.
Il en prend 8, puis là, il s'étouffe. Puis là, c'est interminable parce que là, il sait pas s'il avale, il recrache, nanana. Puis là, j'ai dit, s'il faut, j'appelle ton père pour lui dire que t'es mort en disant. Puis que tes dernières paroles, c'était, tu penses, je suis capable d'en prendre combien?
Ça, c'est des bonnes dernières paroles.
Je sais pas.
À mettre sur une tombe.
Fais-moi pas vivre ça, man. Je veux pas appeler ton père.
Mais moi, une fois que j'étais. Bon, t'es encore jeune, c'est une affaire, ça, tu fais clairement ado. Avec un ami des cannes de Noël. Il y avait, c'était une panne, je pense qu'il y en avait comme 100, mettons, des petites. Puis c'était celui qui mange ses 50 cannes, on les avait supputé à moitié le plus vite possible. Fait qu'on s'était mis toutes les cannes dans la bouche. Sauf que là, tu sais, ça se croise, là, ça faisait des nœuds dans ta bouche. Puis là, c'était tellement gros, mais là, la bouche, ça ferme pas. Ouais. Puis de... Fait que là, vu que la bouche ferme pas, ça se met à fondre. Fait que là, ça nous coulait comme ça, le du rouge-vert qui coulait. Puis ça a tellement écarté mes joues que je me mettais à saigner des joues.
Oui, mais ben c'est des petits bâtons.
Ben oui, puis ça a pris comme une demi-heure avant qu'on réussisse à avaler, là, tant que ça fonde assez. Alors que j'aurais été juste plus intelligent d'en prendre, mettons, 2-3 à la fois. Puis de... Mais non, fait que là, on était 2 épais avec la bouche grosse de même.
Non, je respecte ça, moi.
Oh, ouais.
Non, je respecte ça.
Ouais, j'aime
ça.
C'est clairement ta méthode à toi aussi.
C'est bon, ça. C'est bon.
Faudrait l'en faire.
Ah, c'est extraordinaire. J'aime tellement ça. Veux-tu nous parler de tes romans?
Oui. Ensuite...
Je t'ai coupé plein de fois. On repart du début.
Pas trop.
Commence par le premier.
La fois, tu veux que je te raconte l'histoire un petit peu?
Go!
Ouais.
Oui, puis pas juste à moi, puis aux gens qui nous écoutent.
Ouais, ben L'homme de ses rêves, c'est une comédie romantique, comme je disais. C'est l'histoire d'une fille qui rêve au même gars à tous les soirs. Mmh. Puis là, elle finit par se dire, si je rêve toujours à la même personne, c'est sûr que je l'ai déjà rencontré dans la vraie vie en quelque part. C'est quelqu'un que j'ai croisé au dépanneur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais jeune. Fait qu'elle se met à essayer de le rechercher dans le réel. Puis en même temps, elle continue à rêver, fait qu'il donne des indices dans ses rêves. Fait que c'est vraiment une histoire de comédie romantique assez classique. Où t'as toujours une fille qui hésite entre deux gars, mais là, c'est un gars dans sa tête, puis un gars...
Il y a quand même un petit côté thriller à ça aussi, une espèce de quête avec des indices. Puis,
c'est ça, j'aime toujours les livres qui sont un peu quand même page-turner, qui tentent de savoir la suite, puis il y a quand même beaucoup d'humour, fait que je pense que ça fait que ça se lit vite. Là. Mes livres, c'est souvent des trucs que tu les lis d'un coup, mettons.
Mm-hmm.
C'est ce que j'aime, moi c'est ce que j'aime lire aussi. Mon deuxième, Rage de sucre, c'est deux filles, il y en a une qui est accro au sucre, donc bien des choses qui arrivent. Me sont arrivés aussi. Il y a
même qui... C'est une femme, c'est pas moi.
Mais j'ai fait ça justement pour créer une distance par rapport à moi, c'était plus facile.
C'est Michel Archambottom.
Oui, c'est ça. C'est
Archambottom.
Surtout que finalement, ça vire dans des histoires illégales de drogue, de trafic de drogue, tout ça. Fait que, ce que j'ai toujours.
C'est inspiré de moi. Fait,
c'est ça. Ce qui est illégal, mettons, ça. Je me suis rendu là. Puis il y en a même des affaires que j'ai pas mises, parce que c'était juste too much, là, honnêtement. Il y a certains trucs que j'ai.
Les canonnels, il n'y a pas ça. Là.
Non, mais j'y ai même pas pensé, les canonnels. Cette fois, j'aurais pu. Mais c'est ça. Puis elle décide pendant une fin de semaine de se couper complètement du sucre, d'aller dans un chalet pour totalement oublier son addiction, c'est de se sevrer. Puis à cause d'un quiproquo, elle va se retrouver mêlée à une sorte de trafic de drogue, parce que vu qu'elle est accro au sucre, quelqu'un, en tout cas, est allé dans un groupe de soutien, il pense accro à autre chose plus que le sucre. Fait que là, ça vire, pour ça, juste, ça vire plus thriller ensuite. Fait que. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses qui me sont arrivées.
Cool!
Elle va quand même assis dans le pâté. Quand je l'ai fini, il y a des amis qui l'ont lu après. Puis ils font, ouais, je pensais pas que c'était aussi triste ton affaire. Ah. Il y a comme des bouts. J'ai un peu exagéré pour les bienfaits. Mais
on s'amuse.
Des fois, ça peut être. C'est ça. J'ai joué entre la ligne entre le pathétique et le drôle, mettons, là, sur certains points. Là.
Ma meilleure ligne. Ma ligne préférée.
Mm-hmm.
Ouais. Les gens au podcast sont habitués parce que toutes nos dates, la ligne. C'est plus pathétique. C'est plus pathétique.
C'est drôle avec le recul, mais sur le coup, c'est très pathétique.
Puis comment tu vis avec ça, justement, quand tes amis lisent le livre, quand ta famille, tes parents, tout ça? Est-ce que c'est plus gênant que quand un inconnu lit ton livre, quand tu sais qu'il y a de l'autobiographie un petit peu dedans?
Ben oui, c'est sûr, quand même un peu gênant, mais je pense que les gens autour de moi, ils savent que c'est quand même très, très. C'est pas tout à fait ça.
Tu peux toujours mentir.
C'est toi.
Non. Oui,
ouais.
C'est génial.
Mais c'est trop d'affaires
qu'on entend.
Ta blonde est au courant.
Ouais, ça, c'était un peu trop évident. Il y a bien des trucs qui sont comme Aziz, quand même. Mais, tu sais, ils savent que c'est romancé quand même. Ils vivent bien avec ça, je pense. Mais c'est vraiment le plus autobiographique. Je dirais les autres sont vraiment plus plus loin de moi. Mm-hmm. Sauf le dernier qui parle de tennis, il y a quand même une personne, je m'en ressemble quand même beaucoup aussi sur bien des trucs. Là, mais...
Tu vois les autres comment?
Ouais, ensuite, mon troisième, c'était La mort des corbeaux, qui est lui un thriller fantastique. Le personnage principal meurt dès le premier chapitre.
Ah, cool.
Là, il s'en va dans l'au-delà, où il devient un corbeau, ce qui est un peu comme la faucheuse. Là. C'est-à-dire que quand on meurt, il s'occupe d'accompagner notre âme jusqu'en dans l'au-delà. Mm-hmm. Puis normalement, ben, les faucheurs sont pas censés intervenir sur Terre, parce qu'il faut pas les sentir autour de nous, il faut pas deviner leur existence. Mais lui va s'apercevoir que sa mort est peut-être pas si naturelle qu'il pensait. Fait que tout en faisant son travail de faucheur, de corbeau, il va essayer d'enquêter sur les circonstances de sa mort en même temps.
Ah, cool!
Fait que ça vient une enquête entre sur Terre et dans l'hôtel-là. Fait que c'est pour ça que c'est très, très thriller avec un petit peu de fantastique. Mais l'aspect fantastique, je le traite de manière quand même assez terre-à-terre. C'est-à-dire que dans l'au-delà, c'est comme The Office dans l'au-delà. Mmh. C'est vraiment des vues de bureaux, des bureaux très beige, très... Tout le monde fait voir. Comme ça, on n'a pas plus de moyens, puis on est supposément dans l'au-delà. Fait que ça apporte un peu d'humour.
Ça
apporte un peu d'humour, puis je trouvais que ça faisait un fantastique auquel on peut plus facilement s'identifier, parce que finalement, là, c'est la même crap que quand on vit, quand on meurt, c'est la même chose.
Fait que c'est un peu ça.
Mon dernier qui est sorti
plus récent, cet été.
Oui, tout à fait. C'est Dernière Manche, qui est lui un thriller policier qui se passe dans le monde du tennis. Parce que je suis vraiment un gros, gros fan de tennis. Puis, c'est l'histoire, le meilleur joueur de tennis au monde est un Québécois. Il joue l'Omnium Banque Nationale ici à Montréal. Il meurt en plein match. Il fait ce qui semble être un espèce de malaise cardiaque. C'est ce que tout le monde conclut. Mm-hmm. Mais le personnage principal, qui est un journaliste sportif, qui est comme très, très à cheval sur les statistiques avancées, c'est pour ça que je dis qu'il me ressemble un petit peu. Là. Il est très, très, un peu trop fan de statistiques. Il y a quelqu'un qui le contacte pour lui donner des infos comme quoi la mort de l'athlète québécois elle serait peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui serait impliqué là-dedans.
Du foul play, comme ils disent.
Oui, tout à fait. Ça serait un peu louche. Fait que là, il se met à enquêter là-dessus, à fouiller dans son passé, puis il va découvrir que dans l'entourage de ce gars-là, tout le monde aurait peut-être eu des motifs de vouloir le tuer. Son ex-femme, son entraîneur, son père qui était son entraîneur à l'époque. Est-ce que c'est un fan? Est-ce que c'est un autre joueur qui aurait pu vouloir l'assassiner? Fait que c'est ça. C'est vraiment un thriller où on essaie de découvrir qui est l'assassin. Puis je mets beaucoup d'humour à cause du personnage qui est comme un peu déconnecté, que lui, bon, il enquête sur un meurtre, mais lui, tout ce qui l'intéresse le plus, c'est le différentiel du joueur, ses statistiques. C'est ça qui l'importe le plus. Là.
Très cool.
Très cool. Vous avez joué au tennis ensemble, hein, vous deux?
Des années.
Ah! Est-ce que t'es dans le livre? Est-ce que c'est toi qui meurs?
Oh! Est-ce que t'es le coupable, peut-être?
Ah,
peut-être
oui,
moi!
C'est ça! Oh, oh!
Moi, on joue au tennis ensemble. Moi, j'aimais ça.
Ouais? Toi, t'aimais ça?
Ben oui, tu as fait. Ben oui, tout à fait. Ça criait beaucoup. Ça criait
ouais,
beaucoup.
Ouais, ouais,
mais il faut que ça sorte, hein?
Tu te souviens-tu quand tu t'es pogné avec un petit gars de 12 ans qui
n'en avait
pas? Non! Tu n'as pas de ça?
Non, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quand on jouait, on jouait, puis là, il y avait juste un petit gars qui n'avait rien à faire, qui nous regardait, puis là, ben, il faisait des affaires de petit gars de 12 ans. Là, il riait de nous autres quand on ratait. Puis là, évidemment, la chose mature et adulte à faire, c'est juste d'ignorer l'enfant. C'est quand même une technique assez éprouvée, là, habituellement, qu'un enfant... Toi, évidemment, c'était pas la stratégie que t'as décidé d'employer. Toi, là, t'étais trigger, là, il s'en venait te chercher. Là. Il riait. C'était comme Nelson et Simpson. Mm-hmm. Là, quand tu ratais, il riait de toi parce que tu ratais. Puis là, tu revenais, puis là, tu disais, tu ferais pas mieux que moi, viens jouer. Puis là, tu le pressais de même. Tu sais, lui, évidemment, il t'insultait avec des insultes de petit gars de 12 ans. Là. Il disait « Gros, là! » Puis là, toi, tu y allais vraiment de... C'était vraiment une attitude désagréable. Demande-toi, je suis sûr qu'à la cafétéria de l'école, il n'y a personne qui veut s'asseoir avec toi, puis il n'y a personne qui veut travailler avec toi à l'école. Demande pas de toi pourquoi tu vas devenir un raté plus tard. Puis tu sais, comme si tu allais provoquer une grosse introspection chez lui, là, évidemment. Là. Puis ça a duré comme 20 minutes. Là. C'était interminable. T'étais pas capable de jouer. À chaque fois que tu essayais de jouer, tu te pognais avec le petit gars. Puis un moment donné, t'es comme... Je me sais plus qu'est-ce qu'il a dit, mais t'es allé un petit peu trop loin, puis là, ça l'a comme shaké un petit peu.
J'ai gagné!
T'as réussi.
T'as réussi.
Ah, parfait. OK, moi, j'ai gagné, c'est correct.
Sauf qu'après ça, il est revenu comme 20 minutes après avec sa mère. Puis là, sa mère t'engueulait. OK, t'as l'air que t'as dit à mon petit gars, je me sais plus ce que tu avais dit.
J'ai pas d'amis.
Ouais. Là, tu disais, ben là, ça, votre enfant, il est mal élevé, ça se fait pas. Puis là, tu te déponnais avec sa mère.
Tu gagnes, toi aussi.
Puis toi, tu veux juste pas. Jouer.
Ouais, ouais, moi, je suis d'accord. Allez, Tom, on joue. Là, on joue. Là.
Oui, c'est Michael.
On l'ignore. Ah.
Capote pas sur l'attention, comme c'est pas la chose qu'il aime le plus. Puis moi,
oh my God. Ah,
j'ai complètement oublié ça.
Ah, ben, tu fais bien, écoute.
Oui, tu fais bien d'oublier d'avancer.
Mais écoute, tu l'as peut-être remis sur le droit chemin. Peut-être ça a tout changé sa vie depuis.
Il est à l'école de médecine aujourd'hui.
Effectivement, c'est à partir de là.
Il va sauver des vies.
Il s'en a mis un petit bum, puis là. T'as provoqué une remise en question, peut-être.
Mais j'avais pas tort.
Non,
si t'insultes les deux personnes qui jouent au tennis...
Ça se peut.
au mois de juillet. Non, non, j'ai pas tort.
Non, non, effectivement. Mais c'est juste que je pense qu'il parlait pas la même langue que toi. À 12 ans, c'est ça. Lui, il voulait juste te traiter de gros lait. Puis,
pas bon.
Mais je le prends pas.
Non, non. Oui, on a compris ça.
Ah, barouette. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai gagné. Je retiens, c'est que j'ai pas. Moi, j'ai pas gagné. Non, j'ai perdu. Tout le monde a perdu là-dedans.
T'as perdu le match, mais t'étais plus là pantoute.
Ah, t'étais bon aussi. C'est pas une question de. Oui, oui. J'ai beau mettre ça, c'est la faute du petit gars. Ouais. Waouh!
C'est magique. Ça n'a pas tant changé, mon amour.
Non, c'est ça. Ça pourrait encore arriver aujourd'hui.
Ça pourrait encore arriver, clairement.
Ah, waouh! Extraordinaire.
Est-ce que vous êtes prêts?
Juste avant. Oh. T'as un beau chien.
Ah oui.
Oui.
Parce que ton chien. Parle-nous de ton chien, s'il te plaît. Juste.
Oui, ben mon chien qui s'appelle Boubou, c'est un bouvier bernois. Puis moi, ce que j'aime le plus des chiens, vraiment, c'est. Je trouve que. Ce pourquoi on s'attache autant à eux, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents et extrêmement stupides aussi. Mm. Puis lui, il encapsule ça à la perfection. Il est très intelligent sur certains trucs. Puis d'autres affaires, il est adorablement stupide, là, je dirais. Donc, ça arrive souvent l'hiver, mettons. On regarde la télé, on se met. Oui, ça sent le brûler. Puis on se retourne, puis il est en train. Il a la queue dans le calorifère. Puis il est en train de brûler, puis vraiment, tu sais, ça. Puis lui, ça rend compte de rien, là. Il nous regarde, puis. Faut le tasser, puis il y a tout le dos puis toute la queue, c'est bouillant là. Puis ça rend pas compte. Faut vraiment toujours le protéger de lui-même non-stop. Là.
C'est extraordinaire.
Puis il est vraiment très 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 peureux. En fait, il a vraiment peur des pets, des bruits de pets. Dès qu'il fait un son, que ce soit mettons même un vrai pet ou juste faire pff, avec la, là, il se lève, il est vraiment pas, il part à courir ou ses propres pets. Souvent, là, il part à courir. Puis bon, ça, j'avoue que j'ai peut-être une part de responsabilité dans ce traumatisme-là. C'est que quand il était bébé, c'était pour la science. Je m'étais demandé, c'était une expérience, comment il réagirait si je pétais d'en face? Mais là, je l'ai scrappé à vie.
À vie.
Ça arrivé une fois. Tu sais, depuis, il y a eu peut-être 5000 bruits de pète qu'il a entendu dans sa vie.
Oui, mais.
Mais c'est encore. Il y a la chienne à chaque fois encore. les bruits de pète, là, ça. Il part à courir, puis même des fois que ça vient de lui, il te regarde comme s'il est vraiment insulté, il comprend pas que ça vient de lui.
Wow.
Puis, mais je pense qu'il y a vraiment un problème avec toute la région des fesses, là,
oui.
Parce que ses propres caca aussi ont encore vraiment très peur, parce que t'arrives encore là une fois que, tu sais, des fois ça respire, puis il s'était mis à courir, tout ça. Mais là encore, à chaque fois, quand il fait sa crotte, il part à courir une fois qu'il l'a fait, pour comme « je suis en danger, je dois fuir ». Mais on s'entend que c'est deux fois par jour depuis 6 ans. Là,
wow!
Tout le temps.
Tu
le laisses passer ou tu le rattrapes? C'est cool.
Mais je le check. Mettons, si on est dans un parc, là, il y a sa laisse. Mais je sais que si je suis proche de la rue, il faut que je le check parce que si
un
autobus qui passe, lui,
l'autobus
est moins dangereux que sa crotte. Là, fait qu'il va foncer il va préférer foncer dans l'autobus. Là.
Oh, Boubou!
C'est fascinant.
C'est gros chien, mais.
Waouh!
Il bouffe de la terre aussi, tout le temps. Mais on lui donne, on se fend le derrière à lui donner vraiment les meilleures croquettes possibles. On a tout épluché, les propriétés.
Mais non, c'est comme les enfants. Ben là,
c'est ça,
là.
Ce qu'il veut, c'est bouffer de la terre.
Mais oui, clairement.
C'est un jardinier dans l'âme, écoute.
Non, le pouce vert.
L'autre jour, on a amené, c'était les derniers shows de Mike au Club Soda, puis on est allé juste le voir un petit peu avant le show parce qu'on était avec notre fille. On ne pouvait pas rester donc avec elle tout le long du show. Fait qu'on allait juste saluer la gang. Puis un moment donné, je la tenais dans mes bras. Puis elle a juste comme touché le cadre de porte d'un cadre de porte des loges du Club Soda. Okay. Là. Fait que tu sais, c'est ce que c'est. Puis après ça, elle s'est mis la main dans la bouche. Puis le mec était comme « Ah! » J'ai comme « Ouais, man, là. » À partir du moment que tu as des enfants, la salubrité, ça prend un...
Dans les loges du Club Soda, il y a un sofa. Puis elle s'est assise. Le mec est rentré, puis il a fait... La cirée pas là, moi. Il s'est passé belles affaires,
ce sofa-là. C'était dans le temps de l'ennui, elle échappait des bonbons là-dessus, puis elle les a repris, puis elle les a mangés. Puis c'était juste comme, oh my god, mais ouais, ben.
Sais-tu que les enfants se disaient, ouais, tu peux pas contrôler ça, là.
Mais non.
Elle va être plus forte.
Elle est contente de manger ses petits bonbons.
Mm-hmm. Et un peu d'héroïne.
On sait pas, peut-être, oui.
Et sans doute. Mesdames et messieurs, c'est le moment des dates!
Oh yeah.
Présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie est un sex shop. Si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle ou si t'as envie que tes masturbations aient un peu plus de Eros et compagnie. Avec le code promo COUPLE15, t'as 15% de rabais. Vas-y, essaie les affaires, t'as 15%. Explore la sexualité. Pourquoi pas? Tous les jouets sont le fun. Il n'y a pas de jugement. Et si tu livres, c'est très subtil. Ça arrive pas dans un gros camion qui fait comme « Q, 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 Q ». C'est très subtil, pas de problème. T'auras pas à... Mais c'est gentil, mon amour, c'est mon métier. Alors voilà. Et Eros et compagnie t'offre un jouet.
Il j'ai hâte de voir ça.
Moi aussi.
Alors, vous, vous ne le savez pas d'avance.
On ne sait jamais, non? Oh. Mais on commence à être érudit, là. Tu sais, ça fait une coupe qu'on va passer.
Deviner, ouais, c'est ça. Parce que des fois, j'avoue que je les écoute, puis ça n'a pas l'air clair au premier abord, c'est quoi, là?
Oh, mais ça, là, c'est lui, clair. On le connaît!
Ça, c'est clair.
Portable Happy Cup. Fait que la coupe joyeuse.
Ça oui. Prend bonne humeur. Si tu mets ton pénis là-dedans, tu vas être très heureux.
Ça, c'est une flashlight, c'est ça?
C'est
tu
ça.
Tu l'ouvres, je t'en prie.
Avec, ben oui, ben oui. Avec deux extrémités.
Tu as aussi une petite carte.
Oui, tu peux.
Normalement.
Je vais te le déballer pendant que tu as une petite carte.
Non, ça, c'est,
non, ça, c'est pour le laver.
Il n'y a pas de petite carte.
Et où la petite carte? Oh non, j'ai-tu sorti tantôt?
Où c'est ça?
C'est-tu la petite carte? Oui.
Ah, yeah. La petite carte.
La petite carte, c'est la petite carte.
Suite à la parution de ton livre Dernière Manche, Eros et compagnie a voulu t'offrir ta première sleeve. Oh, OK, ils se donnent quand même. Là.
Oui,
c'est exceptionnel.
Oui, vraiment. Bonne découverte, Eros et compagnie. Ben, merci, Eros et compagnie.
Oh. Ben, let's go!
OK, got it. Et, oh, attends une minute, il y a un autre plastique. C'est, en tout cas, c'est au niveau de la salubrité, t'es correct.
T'es parfait.
Oui, effectivement.
Il n'y a personne qui a mis son pénis là-dedans.
Ah, ben ça, je suis content de l'apprendre.
Ah, OK, je pense que je l'ai ici.
Sans les dents, c'est tough.
My God. C'est quand même lourd, hein?
Ouais, quand même, hein? C'est
et
lourd.
Voilà!
Ben voilà. Première fois que j'ai ça dans mes mains, moi. Hein?
Et il y a deux bouts.
On a découvert tellement d'affaires, nous, depuis qu'on est parti.
Ouais, ça, vous autres, là, ça vous impressionne plus, là.
Encore.
Ah ouais, quand même.
Encore.
Non, mais, tu sais, voir une bouche en...
plastique, caoutchouc, disons-le.
C'est fait en quoi, ouais. Ça?
On va dire caoutchouc.
On sait rien.
Hein. On connaît rien.
En tout cas.
Fait que si t'as le courage, tu peux mettre ton pénis là-dedans.
Ouais.
Le courage.
Peut-être
bon
pas
mot.
Dans le métro, par exemple.
Non,
ouais,
non,
c'est pas dans le métro. Ouais,
tu
c'est
plus
ça.
Prendre le métro.
Ouais, c'est ça. C'est à double tranchant quand même.
Puis ça, je pense que peut-être le chien va avoir peur. Là. S'il a peur de ses crottes, ouais. Il voit la,
oh,
fausse,
non, non.
La fausse bouche.
Voilà.
Ben, ça, il va vouloir jouer avec, mais non. Ça,
non, 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 non. Non,
pas boubou, ça.
Non, boubou. Non, boubou.
Oh my God.
Effectivement.
Bon, ben, joyeuse découverte, comme ils disent. OK. Êtes-vous prêts?
Ben oui.
On passe. Les scripteurs, deux scripteurs, là. Let's go, la gang. Là. Je vais attendre un cours de...
Il écrit plus que moi, puis il écrit mieux.
Je comprends. Okay.
Moi, moi, je suis plus le gars de bout sur un bureau.
Moi, je peux corriger les fautes, là. Je peux faire ça.
Ouh, non, tu vas te fatiguer.
Moi, ça va être long.
Oui, oui.
Non, je ne suis pas là-dedans. OK, bonjour. Cette histoire n'est pas vraiment une date, mais je crois qu'elle se qualifie quand même. Contexte. À l'époque, je suis un homme dans la fin vingtaine en couple. À ma première vraie job, j'avais une collègue qui trippait intense sur moi dès le jour 1. Appelons-la Jenny. Dans la mi-trentaine, elle était une bonne employée, productive et aimée de tous.
De tous.
Il y avait plusieurs problèmes.
Comme dans Forrest Gump.
Comment? Ah, Jenny?
Ah oui, c'est
okay.
Jenny.
Peut-être. C'est peut-être Forrest.
C'est peut-être comme ça, c'est Forrest.
C'est Tom Hanks.
C'est peut-être comme ça qu'elle a pogné le sida.
C'est là qu'on va l'apprendre.
Il y avait plusieurs problèmes à cette situation. J'étais en couple monogame et j'aimais ma blonde.
Ça
compte pas.
Ça, c'est point 1. Point 2. J'étais nouveau dans une première job qui m'avait été très difficile à obtenir. 3. Jenny était en couple monogame avec 2 enfants. 4. Je la trouvais agressivement ordinaire.
Ça veut dire quoi, ça, agressivement ordinaire?
Ça veut dire qu'il trippait pas.
Elle est tellement ordinaire que ça l'agresse.
Ouais. Agressivement.
Comme des sujets de conversation trop plates, puis c'est agressant.
C'est ça dans tes romans, c'est quand tu décris des personnages.
Agressivement ordinaire.
Non, ça, j'ai jamais utilisé, mais je la prends en note.
Pour que les gens savent c'est quoi.
Elle faisait plus vieille que son âge. Je la voyais plus faire du sucre à la crème qu'une fellation. Oh!
Mais là, c'est très vieux.
Mais le cinquième...
Ça l'a mis trentaine, ouais.
Le cinquième, elle faisait du slam.
Oh! OK, c'est agressivement ordinaire, c'est
ça. C'est une belle montée, hein. Je suis donc restée polie malgré ses nombreuses avances peu subtiles. Ça a duré pendant une année. Après un an...
C'est long, se faire croiser au bureau parce que
c'est du harcèlement.
Pendant un an, oui, c'est un peu élevé. Après un an, je me suis séparée de ma blonde. Quand Jenny l'a appris, elle a redoublé d'ardeur.
Oh, tabarouille.
À partir de ce moment, je voyais ses boules, son cul ou sa chatte accidentellement au moins une fois semaine.
Sa chatte accidentellement une fois semaine? C'est quoi cet accident-là?
Elle arrête pas de mettre du papier dans le photocopieur.
Ben oui. Mais les seins aussi, par accident.
Ouais, mais ça, un décolleté, ça peut toujours arriver, mais là...
Oh my God!
À quel point genre, tu trébuches, ton pantalon déchire?
Il faut que les relations humaines
c'est pas bon,
s'en mêlent.
Elle
les
ment
relations humaines,
que...
rapport
oh,
RH, c'est...
Ressources humaines.
Elle
m'embusquait lorsque j'étais seule dans une salle, le stationnement, les toilettes.
C'est pas bon,
elle
ça,
paraissait,
non.
Soulevait sa jupe et me disait qu'elle voulait me sucer chaque semaine.
Ben, c'est pas un accident, ça, là.
Là, C'est ça, vraiment pas un
c'est instant. Prémédité, ça, là.
Bon, ouais. Alors ça, c'est du harcèlement au travail. Je refusais chaque fois, pour plein de raisons, mais principalement parce que je la trouvais vraiment pas sexy. Elle me disait que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Super important. On niaise, là, mais
même
ça, c'est super
si
important.
Même si t'es sexy,
tu peux
faire.
Non, super important.
C'est pas à faire.
Si t'es sexy, tu peux avoir tous ces comportements-là.
C'est ça.
Si tu te regardes dans le miroir et tu fais tabarnak.
Faut que je montre ça à tout le monde.
Tu peux.
Surtout à Forest.
Ben oui.
OK, elle me dit que je pouvais l'appeler n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Non, mais c'est ça, je veux pas.
Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle continuait sans cesse. Après quelques semaines, je suis allée voir le gars de RH.
Ah!
Bon.
Voilà.
Il m'a recommandé, et je cite, « Prends-la ou prends sur toi. »
Oh! Ça vient vieillir, ce côté-là.
C'est un bon conseil.
Oui, vraiment.
Ah, les choses ont changé en quelques années.
Ouais, le pire, c'est que des fois, ça n'a même pas changé. C'est ça l'affaire.
Ouais. Ouais, mais maintenant, je pense que les gens, ils savent pas nécessairement qu'il faut pas. Ils savent que ça se dit pas, mais
ils disent autrement.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Quand j'en ai parlé à ma boss, elle était indifférente. Elle m'a dit de régler ça entre nous. Alors, j'ai
non,
continué.
C'est ça. C'est quand on donne tout seul, on
c'est
va
parce que là, je te demande de l'aide.
Elle monte ses seins. C'est tough de discuter, là.
Alors, j'ai continué à me faire embusquer par Jenny. C'était juste un irritant de plus dans ma semaine.
C'est ça génial qu'elle parle à tous ses collègues, puis qu'il faut. Bah!
Ouais, rien, ça, là. Prends-la ou prends-en toi.
Il dit,
c'est malade, ça.
Il dit que c'était rendu un irritant de plus dans sa semaine, comme quand il manque de toner dans l'imprimante. Il est rendu tellement habitué de se faire harceler au travail.
C'est
fatigué, et comme quand il faut changer la cartouche. Ah! Encore!
Je te l'ai dit.
La compagnie a organisé une retraite de 2 jours dans un gros hôtel avec tous les employés. Lors du party costumé, j'ai porté le déguisement...
Un party costumé?
Ouais.
C'est une des raisons pourquoi nous, on travaille en art. Il n'y a pas de party costumé.
Ouais, je comprends.
Fait que, tu sais, je le comprends d'avoir gardé sa job jusque-là, mais moi, j'aurais démissionné à cause
au
de party. Ouais. Mais ça, c'est la goutte de trop.
Oh, le harcèlement, ça, c'est show business, mais le costume, c'est pas...
Ah, mais tu sais, une retraite de 2 jours dans un hôtel
long,
avec tout le...
Jours.
C'est long. Puis en plus, c'est sûr que c'est le week-end, puis là, tu recommences la semaine de travail après, t'es comme, j'ai pas eu le week-end.
J'ai vu ce monde-là.
J'ai pas besoin de le voir déguisé en diable pour
ça. Lors du party costumé, j'ai porté le déguisement le moins sexy que j'ai pu trouver, just to buy my love.
Oh. Ce qui est faux!
c'est vrai que c'est quand même hot.
Ah oui, quand il danse, c'est très érotique.
Ben voilà. J'ai profité du bar open. Jenny déguisée en pin-up des années 20.
Surprise!
Étais-tu déguisée ou la fin de semaine, elle était bien de même?
C'est son kit, là.
Ah, on a profité. Elle m'a suivi jusque dans l'ascenseur, a fermé les portes et s'est lancée sur mon pantalon. À ce moment, j'ai abandonné. Oh! Elle a commencé à me sucer comme si sa vie en dépendait. Il s'est laissé faire.
Je sais pas si pendant il faisait des tupouilles de Just Up, tu sais, conché pendant.
Oh mon Dieu.
Regarde ton personnage.
Je dois avouer qu'elle était meilleure suceuse que slameuse.
C'est toute une phrase.
Oh, quand même, ça.
Ah, une
ça,
autre,
c'est
une autre.
Ça, c'est une phrase de slam, ça.
Ben oui.
Il y a un jeu de mots à faire avec l'angle là-dedans. C'est sûr, là, il y a de quoi, là.
Après un moment, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et Joanne de la comptabilité nous a surpris. Bien sûr, Joanne de la comptabilité.
Ouais, tu t'appelais Anas, m'a rendu là. On a pas besoin de spécifier comptabilité, là. Tu le sais, là.
Elle a hurlé et s'est enfuie en courant.
Ah, comme ton chien!
T'es quelqu'un pété à ce moment-là.
Jenny n'a même pas ralenti le rythme. Je lui ai venu dans la gueule, dit-il. Ah. À partir de ce moment, elle avait atteint son objectif. Elle ne m'a plus dérangée. Elle a été très professionnelle avec moi.
C'est pas une bonne leçon.
Non, c'est ça, là.
Joanne s'est plainte au RH.
Il est occupé, ce gars-là, mais...
Ah ouais.
Il a les ressources humaines.
J'ai hâte de voir ce qu'il a dit, là, le gars des RH.
Ah, ben, elle fait bien. Mais nous n'avons eu aucune représailles. Tout le monde s'en foutait. Dès la semaine suivante, nos collègues nous appelaient conché et conché.
Oh, tu vois.
Quel milieu de travail.
Où tu travailles?
C'est ça, il travaille où?
C'est quoi cette entreprise-là?
La Banque du Canada, tu sais. À l'ONU, il travaille à l'ONU. Ah c'est wow.
Oh my God! Eh ben, party de bureau, hein, les amis?
C'est pas un party de bureau, c'est le quotidien.
Oui, c'est vrai, ça a duré tellement longtemps. C'est ce qu'on peut appeler une très mauvaise, c'est ça, pas date, mais...
Ah, ben, il y a pas mal, c'est
très mauvaise année.
Très mauvaise époque. Est-ce que t'aimes lire? Tu veux-tu lire?
Ben oui, tout à fait.
Super.
Sur YouTube, j'ai plus Notre-Dame de Paris.
Ah oui,
là,
je comprends.
Mais bon.
Ça risque d'être un peu différent.
OK, c'est un méchant...
C'est un bloc.
Il fait lire un roman.
Ah oui, vraiment.
C'est une nouvelle.
C'est un bloc.
C'est un paragraphe.
C'est une nouvelle.
Au moins,
ah oui, c'est ça, bienvenue dans les fois, les gens qui nous envoient des dates.
Oui, c'est ça, oui.
C'est ça, ils sont pas habitués d'avoir...
C'est pas que
t'es manuscrit, là. C'est...
Non.
Mais c'est un genre littéraire, hein, juste jamais de ponctuation.
Et ouais.
Ouais, dans le fond, c'est un gros poème, c'est
oui.
ça.
Bonne chance, prends ton souffle.
Ouais. Bonjour à tous. Cette histoire pourrait s'intituler « Comment j'ai rencontré mon ex qui a fini par faire des trous dans mes murs ». C'est quand même un long titre, là.
<T'es>
ou la première fois que j'ai fait du moche.
Oh!
Oh, quand même.
Okay.
Le « où » est le fun.
Oui, mm. effectivement. Mais c'est deux, vraiment, c'est deux suggestions.
Oui.
Je pense, je sais pas si vous avez gardé vos courriels en note pour y réécrire après.
Qu'on a choisi.
Ouais, lequel que j'ai choisi. Ouais. Première fois que j'ai fait du moche. OK, c'est ça le titre.
Parfait.
Mise en contexte, je suis une femme de 23 ans et je sortais avec un gars depuis 2 ans. Écoute, il y a une faute à gars.
Comment
avec
ça?
Comment
qu'elle
l'écrit?
Il
n'y
a pas de S. Avec un gars ou un gars. Je sais pas trop. Bon.
On pourrait écrire là, comme c'est lit comme c'est écrit.
Avec un gars, ouais, c'est ça. Que je vais l'écrire. Vraiment. Et c'était rendu on and off. Nous l'appellerons Maxime.
Il avait... C'est clair qu'il s'appelle Maxime. À chaque fois qu'il dit on va l'appeler. Des fois, c'est, on va l'appeler Ludovic. Il s'appelle ouais, Ludovic. C'est comme personne n'utilise ouais. Ludovic.
Choix? Ouais.
On va l'appeler Ludovic B. Tremblay. Là. Beaucoup trop précis. Il avait déménagé 2 fois du même appartement dans lequel on vivait. Au moment où l'histoire a lieu, il vient de déménager dans son nouvel appartement depuis 2 semaines. Clairement, c'était le temps de prendre mon courage à 2 mains et finir la relation comme une adulte responsable qui sait comment dealer avec l'abandon.
Mm. L'abandon, je sais pas, c'est qu'il peut ouais. juste plus payer le loyer. Là. Bref.
Écoute, il y a des gros problèmes sous-entendus, je pense. Mm. Heureusement pour vous, j'en avais décidé autrement. Mm. C'est un soir de printemps, la ville commençait à s'éveiller et moi, j'avais le plan de devenir meilleur ami avec une fille qui avait fréquenté un de mes ex. Elle s'appelle Cynthia.
Ah,
quel plan ouais, exceptionnel.
Ouais. Je te connais pas, mais tu vas être mon meilleur ami.
Non, mais c'est surtout c'est de l'ex, puis t'as couché
ouais,
avec
ouais, ouais, ça fait... Ouais.
Ma future amie et moi, déjà, okay, elle la tient pour acquis déjà. Ma future amie et moi avions prévu de faire un pre-drink et de faire la tournée des bars cette soirée-là. Pour ce faire, il nous fallait des shots de sourpuss. Et bon, on sait qu'elle a 23 ans, parfait. Et par chance, j'avais un restant de cet élixir de débauche chez Maxime. Mm. C'était une slameuse de tantôt, ça peut-être. Là.
Complètement, oui.
Donc, je le texte et j'arrive à son appartement pour récupérer la bouteille. Je lui explique le plan, très heureuse de me faire une nouvelle amie. Il ose me dire... En tout cas, si tu te ramasses à 4 pattes sur la rue, nom de la rue où il y a plein de bars en majuscule, tu n'es plus ma blonde.
OK.
Quand même.
Tout est bon.
Ben oui, ben c'est ouais. super adéquat.
C'est ça, tout à fait. Pas contrôlant du tout.
Mm-hmm. Non.
À l'instant même qu'il eut prononcé ces mots magiques, il ne savait pas, mais il venait de libérer Ella au pays enchanté.
Ah!
Fait que je me dis, elle s'appelle Ella.
C'est son alter ego, genre?
Ouais.
Elle a traversé le miroir.
C'est ça, exact.
Parfait.
Ou, dans mon cas, un démon déchaîné. Mm. Rien de moins. Je n'ai plus souvenir de comment je me suis rendu chez mon ami, mais probablement en volant avec mes 3 dragons.
Ah, mon Dieu, ça y est, c'est fantastique!
Oui, vraiment.
Genre, je m'attendais pas à ça aujourd'hui.
Il y a plusieurs univers, là.
Oh
c'est
my
pour
God.
Ça que c'est un gros bloc. C'est comme Game of Thrones. Là.
Oui,
c'est vraiment un gros bloc de texte, là. Arrivé chez elle, je lui raconte le tout et le sourpuss coule à flot. On finit par aller souper en ville sur la fameuse rue où il ne faut pas que je perde l'usage de mes jambes.
Mais pourquoi elle nomme pas la rue? Tu sais, c'est comme la rue dont on ne doit pas prononcer ben, le nom. Tu peux juste dire Sainte-Catherine, là, on va se calmer.
Mais là, on va pouvoir trop le reconnaître.
Oui.
D'un coup, c'est la fois la fille qui était là à Sainte-Catherine. On
oui, parce que sur Saint-Laurent, il n'y a jamais des gens en état d'ébriété.
Non, non, jamais, c'est ça. Là.
C'est la fois accueillie.
C'est quand même très drôle. Effectivement, elle la nomme jamais. là, il faut que je trouve mon... où est-ce que je suis rendu dans ce bloc-là. OK, donc elle est sur la fameuse rue dont on ne doit pas prononcer le nom. Je croise Patrick, un ami de Maxime, pas un ami proche, mais un ami quand même. J'étais complètement sué à brosse et quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras et j'ai tourné avec. Qui fait ça? Moi, ça a l'air. Au moins, en tout cas.
On connaît que c'est spécial.
Effectivement. Ouais, on connaît. Néanmoins, après ces drôles de salutations, je ne lui adresse plus du tout la parole, mais Patrick reviendra dans l'histoire.
J'imagine que Patrick il a voulu revenir avec la fille qui prend de même et qui tourne.
J'imagine. Mmh. À moins qu'ils sentent que c'était vraiment important de préciser cette anecdote-là. Mmh. Cynthia et on, donc j'imagine Cynthia et moi, on parle de tout et de rien.
Cynthia
ça clique.
Et on!
Juste avant qu'il fasse noir, on quitte le bar et on tourne chez elle avec un gars. Encore, il crie pas de S. C'est vraiment donc c'était pas une coquille. Elle
se rend pas que ça prend de S.
Mais c'est un gars, des gars avec un S. Ça doit être ça, là. Excusez-moi, il faut que je mette mon doigt sur
lui. C'est ta faute, Michael. C'est ta faute. Prends-toi mal.
Avec un gars qu'elle voyait, Nicolas. Arrivé chez... Mais là, Nicolas, il y a un S, même s'il y a juste un Nicolas.
OK.
C'est dur à suivre.
Arrivé chez Cynthia, Nicolas nous propose de faire du moche, en majuscule.
Toujours bon prendre du moche ouais. après avoir pris beaucoup d'alcool.
Ben oui, c'est sûr. Moche et sourpuss, là.
C'est parfait.
Proposition que j'accepte en gobant l'hallucinogène sans réfléchir, et mon ami aussi. On finit par aller chez Nicolas qui habite...
Ah, son ami, c'est une chépielle.
Ben oui, là,
c'est... Oh, ouais. c'est plus, après, c'est plus futur ami maintenant. Ouais.
C'est la moche,
ça rapproche les gens.
Ben ça, oui. Mais oui, oui, ça oui.
Le sang pousse
ouais.
aussi.
Ouais. On finit par aller chez Nicolas qui habite avec un ami de Maxime. Allez, il y a trop de monde, j'avoue,
ah,
je suis
oui,
un peu perdu.
Mais c'est comme d'habitude, c'est
Game of Thrones. Game of Thrones,
c'est Maxime, ça. C'est... Ça te prendrait une map, là. Ouais,
un arbre généalogique, oui. vraiment.
Avec une map de la rue dont il ne faut pas nommer.
Ouais, puis... c'est vraiment.
Avec les voyants.
Rhaenyris.
Cynthia et moi, on est sur le moche. On prend un bain flambette.
Ah! Et tout nu. Si on y prend un bain tout nu.
Ouais, là, je sais, mais...
On dirait que c'est le bain qui m'étonne plus, tu sais. Tu souhaites tout nu dans le bain, OK, là, mais... Ah, c'est vrai. Mm-hmm. Tu prends des bains des parties.
On prend un bain flambette. Il n'y a pas d'eau chaude. Nicolas nous fait chauffer de l'eau.
What?
OK.
Ah, mais il va voir tout nu. Je comprends. Il y a deux filles tout nues. Moi, t'en faire chauffer de l'eau.
Bon, non, c'est clair. Non, mais c'est plus comme ça. Il n'y a pas d'eau chaude, en tout cas. Il fait à bouloir, j'imagine.
Ouais.
Il se passe bien des affaires. C'est oh. ça, c'est texto, qu'est-ce qui est écrit.
La soirée... Moi, c'est ça que j'aurais décrit, mais c'est plus que comment tourner avec Patrick. Mais hey.
Écoute. Un peu de répétition là-dedans, peut-être. tu réécriras après. La soirée va de bon train. Patrick débarque avec le coloc de Nicolas. Bon, un autre personnage. Je ne remarque même pas parce que je suis en train de frencher Cynthia sur le divan. Oui, oui, vous avez bien lu.
Okay.
J'ai commencé à essayer de la doigter. Okay, c'est pas une amie qu'elle voulait, là.
Oui, j'imagine, oui.
Et on se rend compte que, oups, on est chez des gens et que peut-être ça ne se faisait pas.
Je pense que ça se fait.
On arrête.
Ça dépend du party.
J'ai l'impression que ces gars-là, c'est ça qu'ils voulaient. Là.
Ouais, ça, ils viennent de prendre un bain.
Ils sont pas dit, moi, je voulais jaser.
Ouais, ouais. Je voulais jaser avec les deux filles sur le sourpuss puis sur le moche.
C'était une dégustation de Porto ici ce soir, là, du calme.
On arrête et on retourne au party qui prenait fin. Tout le monde est fatigué. Patrick me demande si c'est correct qu'il dorme avec nous sur le divan. J'ai dit oui, il y a de la place. C'était un gros divan en L.
oui, c'est ça qu'il veut, c'est la place.
Ouais, c'est ça. Cynthia et moi, on dort aux deux opposés du L. Par contre, pour une raison qui m'échappe, Patrick se couche assez proche de moi.
Ah, une raison qui m'échappe, je sais pas. Ah,
j'ai aucune idée. Je vois pas du tout. Vraiment.
Ah, mais il fait chaud, pourquoi?
Je sais pas. Ce que je ne savais pas et qu'elle m'a dit plus tard, c'est qu'elle avait discuté plus tôt de la possibilité de coucher avec moi avec le coloc de Nicolas.
Ouais, c'est peut-être avec elle qu'il aurait dû discuter de ça.
Projet un peu, là. Il est important de savoir que ces deux-là sont des amis de Maxime et qu'ils avaient conclu que Patrick pouvait bien s'essayer.
Hein?
Oh, ah. Bah, eux, ils ont décidé entre eux qu'ils pouvaient s'essayer sur elle.
OK.
C'est pas bon, ça.
Non, mon amour, ma chérie.
Donc, j'essaie de dormir un peu trop heureux sur le moche à côté de Patrick. Tout à coup, nos pieds se touchent, je commence à aimer ça et je me dis que c'est pas si grave si c'est juste les pieds, j'ai le droit.
Ah, OK.
Oui, t'as le droit.
Oui.
Effectivement.
Pour que finalement, les frottements de pieds se transforment en cuillère et que la cuillère se transforme en « il dézippe mes pantalons de jeans et il glisse sa main
mm-hmm. ».
Les pensées dans ma tête défilent aussi vite que les pensées d'une fille bien buzzée peuvent. Je me dis « OK, si le French mal, j'arrête, it's a match fuck ». Je me dis « OK ». Il y a bien des Y, c'est pour ça. S'il a une petite graine, là, j'arrête.
Oh mon Dieu!
Une fille avec des principes, quand même.
Ouais. À des critères.
Ouais, ouais.
Regarde, elle a ses limites.
Faut que tu frenches bien, puis t'as un gros bénis.
Voilà. Je dézippe
ses pantalons. C'est les critères de bain du monde, hein? En passant, ouais, parce que
je vais le mentionner.
Je dézippe ses pantalons, tabarnak, en majuscule.
Oh!
Dans la même seconde où je pense au fait que je veux cette verge en moi... Je me rappelle que mon amie Cynthia est à côté de moi. C'est vraiment des amis proches depuis longtemps. Je dis donc à Patrick qu'il faudrait aller ailleurs. Alors qu'ils viennent de prendre un bain ensemble, en tout cas. Mm. Tu sais, faudrait pas que Maxime apprenne ça. C'est pas comme si tout le monde m'avait vu frencher et autres avec Cynthia quelques heures plus tôt. Le phallus au garde-à-vous, comme j'en avais jamais vu avant, Patrick me suit dans la salle de bain où je me couche par terre.
Oh.
Après deux coups de graine, on entend cogner à la porte. J'imagine s'ils n'ont pas cogné à la porte avec les deux coups de graine. vu qu'il n'y a pas de virgule, je suis sûr de bien comprendre.
C'est super mou.
Non, mais c'est le phallus au garde-à-vous, comme on n'a
jamais vu ça.
Pardon.
Jamais.
Comme jamais.
On est dans le noir, pétrifié comme des chevreuils devant un phare.
Faire l'amour dans le noir, couché sur
le
pril.
Ah
ouais. Dans un appart qui n'a pas l'eau chaude, là.
Mm-hmm.
Comme des chevreuils devant un phare. On attend la personne prendre un couteau dans le tiroir de la cuisine.
Ah!
Et merde.
Quoi?
Okay. Comme un chevreuil, dans le fond.
Ouais. Game of Thrones, encore une fois, on est vraiment là-dedans. Je dis à Patrick de sortir et moi, je vais me cacher dans le bain avec le rideau fermé. OK, fait que c'est son chum. OK, je comprends. Là. Je suis flambant nu pour cacher la vérité, pas le temps de se rhabiller, esti. Patrick sort et je comprends que c'est Nicolas qui vient aux toilettes.
Oh.
Je l'entends s'asseoir et sans gêne laisser chanter son rectum.
Oh non! Oh my God, mais quelle soirée!
Tout ça gelé, hein?
Oui, oui, tout à fait. Là, elle devait penser que c'était autre chose, un champ de je sais pas quoi. Là.
Oh my God.
Je lui ai dit sans gêne, parce qu'après avoir déchargé la marchandise, il me demande qu'est-ce que je calisse dans le bain.
Est-ce que j'ai une question tout à fait légitime?
Oh, oui, c'est très bien.
Ouais.
Moi qui croyais avoir la cachette du siècle, et pas très bonne la cachette, je lui réponds que je n'ai pas eu le temps de me rhabiller. Je me rappelle pas du reste, mais finalement, je suis sorti. Patrick m'attendait sur le divan et Cynthia était partie dormir avec Nicolas. Bien sûr, tant qu'à avoir fait tout ça, je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout. On fourre longtemps sur le divan et on s'endort. Le lendemain, Patrick est venu me porter à mon auto et je l'embrasse. Et arrivé chez moi, j'ai texté Maxime pour lui dire que ça ne pouvait plus fonctionner.
J'imagine. Mm.
Je n'ai jamais su ce que les amis de Maxime lui ont dit et comment il a appris l'histoire. Le karma s'est bien occupé de moi après. Je suis sorti avec Patrick un an et demi et notre relation a fini avec les policiers dans ma cuisine, la table flippe à l'envers.
Oh.
Qui a cru que le gars avec un couteau...
il y avait un petit pattern violent. Mm.
Sachez que ça fait 2 mois maintenant... OK, c'est assez récent. Mm. Je vais bien et j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Moi et Cynthia, on est devenus meilleurs amis.
Oh, ben, c'est son plan initial!
Et voilà, au moins, l'objectif est réussi. Et elle sort avec Nicolas.
Ah! Oh.
Bisous, je vous aime full.
Oh my God! Ben, on est content, t'ailles bien, comme dirait Niamh.
Effectivement, écoute, c'est l'important. Je me suis un petit peu perdu dans tous les personnages.
Moi aussi,
pas tout suivi,
moi
mais...
aussi. J'étais comme l'important, c'est que je me souvienne du chum du début. Là.
En fait, c'est l'important, Maxime. C'est qu'elle va bien et qu'elle m'a rendu meilleure amie que Cynthia.
Oui, ouais! ça c'est ben, c'est beau qu'il y ait du positif qui soit sorti de
l'amitié
cette
femme en deux femmes, c'est beau.
Incroyable. J'en ai pas de nom de la rue où il y a plein de bars. C'est quand même comme ça.
On l'a jamais su.
C'est ça le plus
mystérieux.
Oui.
C'est-tu Saint-Laurent, c'est-tu Saint-Catherine, c'est-tu
Saint-Denis? Là, on tient pour acquis que c'est à Montréal, mais c'est peut-être.
Oh my God, le monde vit tellement des affaires. Ouais. J'en reviens pas.
Mais c'était ça, c'était dans un petit village où comme il y a une rue des bars, fait que peut-être que l'on aurait deviné, c'est peut-être ça.
Des fois, est-ce que quand t'écris tes romans, tu dis comme j'exagère, puis après ça, t'entends une date à couple ouvert, puis tu fais c'est pas super. Ouais.
Effectivement, ça aurait pas pu passer dans un roman, ça se peut pas, là.
Mais c'était un bon épisode.
Ben oui,
merci
beaucoup,
Mickaël. Merci beaucoup, Mickaël. On lit tes livres. On va te voir au Salon du Livre si on veut te jaser.
Oui, tout à fait.
Et on salue ton beau chien.
Est-ce que t'aimes ça, les salons du livre? T'aimes-tu ça, les salons du livre?
Ben oui, c'est super le fun.
J'adore aller là.
Oh oui, vraiment.
Tu fais-tu plusieurs salons? Tu sais, Montréal, Québec, machin.
Oui, j'en fais quand même plusieurs. Je fais ça, les salons du livre. Puis là, avec la pandémie, il y a des groupes d'auteurs qui ont lancé ce qu'ils appellent les salons du livre clandestins.
Okay.
C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui organisent ça, que, mettons, ils louent une érablière, des choses comme ça.
Okay.
Puis c'est un peu plus intime. On est peut-être, mettons, 40, 50 auteurs. Tous des auteurs de thrillers, souvent du même genre. Puis là, il y a moins de monde. Fait que ça fait. En fait, il y a comme, mettons, peut-être 200 personnes, mais c'est juste des amateurs de ce genre-là.
Ah,
fait que
ben
c'est vraiment
oui.
le fun. Puis c'est super le fun là, de rencontrer les lecteurs. Quand on écrit, on est toujours tout seul aussi. Là.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que là, d'avoir un contact avec les lecteurs, c'est vraiment le fun. Puis là, tu revois les mêmes mondes d'une fois à l'autre.
Ah, c'est cool. Puis comment qu'on peut trouver ça? Comment qu'on peut y aller à ces trucs clandestins?
Ce truc-là, ben, ça, c'est un groupe Facebook qui s'appelle les lecteurs de romans noirs, horreurs policiers.
Okay.
Puis là-dessus, ils en font à peu près 1 ou 2 mois.
Okay.
Puis là, ben, là ils changent de ville pour rejoindre différentes personnes.
OK, cool.
Puis là, les gens font juste venir. Puis là, on a plus de temps pour jaser. J'aime beaucoup les salons traditionnels.
Ouais.
Mais ça, il y a vraiment beaucoup de monde. Puis là, ça va un
ça
peu plus
vite.
Ouais. On a un peu plus le temps de jaser. Fait que...
Ah, nice.
Ça, c'est précieux d'avoir une vraie relation avec les lecteurs. Là. C'est ça qui est très fort. Après ça, quand tu repars chez vous, c'est tellement nourrissant.
Oui.
T'es sûr que pendant 8 heures, tout le monde qui dit que t'es bon et que t'es fin, ça donne
fait
un petit.
Du bien.
Ouais. Puis après ça, quand t'es dans un panier sur un nœud dans ton histoire, tu sais, mon Dieu, je t'ai chié. Là. Tout ce que j'ai créé de la merde, mais là, tu peux te rappeler un peu de ce que des gens que t'as vu. Fait que c'est vraiment le fun. Là.
Chouette!
Hey, merci, Mickaël.
Merci à vous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.